Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine Morienthaler.
Bonjour.
Auteur d'un essai sur le jeu de rôle. Nous sommes également avec Fabien
Hildwein. Lui-même, le vrai.
Stratos,
l'unique. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis ici. C'est quoi le sujet?
Tu sais pas ce que
tu c'est. Verras, tu verras,
tu verras. Nous sommes également avec Valentin T.
Salut, ça va?
Des artisans, des nombreux artisans des courants alternatifs. Entre autres, parce que tu fais aussi plein de Pico Games et tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce thème de podcast, Antoine?
C'est parti, on va expliquer les choses clairement. Alors, c'est un thème de podcast qui vient directement d'une vidéo YouTube que j'ai vue il y a quelques jours, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Extra Credits, que je vous recommande fortement, qui est une chaîne YouTube qui parle de game design très principalement dans le domaine du jeu vidéo et de l'industrie du jeu vidéo en général et de plein d'éléments dedans que je suis depuis... quelques années, qui est très intéressante et dans laquelle j'ai vu une vidéo qui, je trouvais, avait beaucoup de ponts assez directs avec le jeu de rôle à faire, qui peuvent être intéressants. Donc, c'est juste une réflexion que je vous amène, basée sur la réflexion de cette vidéo. Voilà. Le thème étant, le titre de la vidéo et le thème étant « Don't just hire your fans ».
Moi, je n'écris pas de titre en anglais. Hein. Je suis malouin,
oui.
Si tu veux.
Qui est
c'est pas le sens, c'était pas sense.
No.
Donc, c'est la façon de traduire, c'est ne recrutez pas juste vos fans.
Juste vos fans.
Oui. Un peu, pourquoi pas, mais si tout le monde est un fan, ça pose problème. Alors, le contexte de cette vidéo est important. Ça parle de développement de jeux vidéo. Dans le contexte du jeu vidéo, c'est systématiquement des travails d'équipe. Donc, on est plus...
Ouais, vas-y. Pourquoi tu penses à la cellule quand tu peux m'expliquer?
Bah, je pensais pas à la cellule, j'en pensais plus. Au contraire, je pensais plus à certaines pans du jeu de rôle, notamment tradi, qui perpétuent un peu les mêmes systèmes et les mêmes habitudes.
Non mais on va pas se faire, d'accord, on va pas okay. Se mentir. Enfin,
non mais aussi.
Allô,
évidemment,
allô,
mais...
Antoine.
Oui, je sais
moi,
bien.
Moi je suis le premier à pouvoir entendre que. Je fais surtout tester mes jeux à mes amis, à des gens qui connaissent déjà.
Ouais.
Je mon mes jeux, je les fais d'abord tester à Valentin, tu vois, parce que je suis sûr qu'il comprend de quoi je veux parler.
Tu sais qu'on se sent très concerné,
oui.
Là.
Non, mais
donc, on va pas tourner autour du pot.
Dans le contexte de la vidéo, il n'y a pas ce genre de contexte-là qui est d'un créateur unique, qui n'a pas vraiment une équipe de travail pour pouvoir en parler. Je vais vous donner tel quel le message de la vidéo et après, on fera les ponts qu'il y a à faire.
D'accord, ok.
Donc l'idée est la suivante, dans le contexte du jeu vidéo toujours, mais ça peut après s'épandre. Les jeux, et en particulier les suites de jeux, les séries ou les sequels ou les épisodes, les jeux suivants d'un studio donné.
Genre Donjons et Dragons 1, 2, 3.
Voilà. Ont tendance à devenir plus hardcore, moins accessible et à se concentrer sur les choses que seul le pourcentage des joueurs les plus investis aiment.
Intéressant.
pourquoi tu dis ça sur ce ton là?
Ah, je sais pas, peut-être qu'il y a des points à faire effectivement le jeu de rôle, ça m'intéresse.
J'avais l'impression que pour les jeux vidéo c'est le contraire. J'avais souvent entendu que les premiers jeux d'une série sont plus exigeants et qu'après ils essayent d'attirer un public plus large en comptant sur la renommée du jeu et tout. Et de...
Ça dépend vraiment des séries.
Bon, je pense que ça dépend
c'est
des
une grosse généralité. Hein. C'est un
la série des Dark Souls, par exemple, il semble qu'au contraire, ils étaient plus accessibles.
Oui, Dark Souls évite
enfin, pas moins difficile, mais oui. Ils réglaient pas mal de leurs problèmes précédents.
Et donc, il y a plusieurs éléments dans la vidéo Extra Credits qui peuvent expliquer un peu ça. Et le postulat de cette vidéo, c'est d'interroger une pratique qui,
Antoine.
Elle, est courante dans l'industrie du jeu vidéo et qui se constate. C'est que même quand on regarde comment les compagnies de jeux vidéo recrutent des gens pour rejoindre l'équipe, c'est très régulier d'avoir des offres d'emploi du type avoir de l'expérience dans l'informatique, dans tel domaine, avoir une compétence graphiste ou autre, et avoir joué plus de tant d'heures à tel jeu de la compagnie.
Ah
ou,
oui.
Avoir, ou avoir tel score sur le ladder en ligne, ou avoir comme une façon de recruter des gens qui ont de l'expérience avec le jeu en question.
Ok, maintenant je ne recrute pour la cellule que des gens qui sont classés dans le Val. Hein.
Voilà, c'est exactement ça.
Valentin, dégage.
Alors...
Parce que seuls les gens qui sont classés haut dans le Val auront un avis pertinent pour améliorer le Val.
Je le dis tout de suite, j'ai fait 800 heures sur Binding of Isaac, si vous voulez me recruter. C'était le jeu auquel je jouais quand j'étais stressé pendant ma thèse et j'ai perdu des années de ma vie comme ça.
Bon, Valentin, en fait, tu peux rester parce que tu m'as offert un super jeu de cartes Saint Seiya. Donc, allez.
Donc la corruption, ça marche. C'est ça. Soit t'es fan, soit t'es corrompu.
Non, mais c'est quoi ce délire?
Donc, pas que vos fans et les gens qui vous font des cadeaux.
Attends, c'est quoi ce truc?
Oui, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est assez courant comme démarche.
Alors, je voyais bien le truc des bêta. Déjà, des bêta-tests, là, c'est clair. Tu vois, quand un jeu vidéo annonce l'ouverture d'une bêta, c'est clair qu'il n'y a que les gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup envie de jouer au jeu, à la bêta, et donc forcément qui ont peut-être qui déjà ont des, joué aux opus précédents, ou qui connaissent la licence préalable. Moi, je me souviens quand Warhammer en MMORPG était sorti, bah, évidemment, tu avais tous les mecs qui jouaient à Warhammer et à World of Warcraft, c'est-à-dire, j'entends, le jeu de figurines et World of Warcraft, qui, ils étaient au taquet sur la bêta, quoi. Ils voulaient tous leur passe et tout. Ça, je peux le comprendre. Par contre, que les entreprises fassent des annonces, des trucs de recrutement comme ça, alors là, ça me perfore le fondement. Hein. Mm. C'est hallucinant comme truc.
Et là, effectivement, on parle plus du coup des créateurs, des designers de jeux que des joueurs en eux-mêmes, même s'il va y avoir un pont, parce que des designers qui ont ce profil vont être plus à même d'écouter les idées et les suggestions de joueurs qui ont aussi ce profil-là.
C'est assez courant dans le recrutement des entreprises en général, que tu recrutes toujours des gens qui te ressemblent.
Super, je vais te dire à l'université.
Mais à l'université aussi, tu recrutes des gens qui te ressemblent.
Ok, donne-moi un Fisherman, j'ai besoin de me détendre.
Qu'est-ce qui t'étonne ? C'est évident que tu recrutes plutôt des... Enfin, c'est évident. J'ai la
sensation qu'un bon général doit faire...
C'est un constat, hein. Je ne suis pas en train de te dire c'est bien. Je te dis juste que c'est malheureusement un grand classique des études de la discrimination que tu recrutes des gens qui te ressemblent. Et comme la plupart des gens au pouvoir...
Une chose est de dire je recrute des gens qui me ressemblent, c'est-à-dire en gros qui parlent ma langue, qui sont globalement... Alors, je suis auteur de jeux de rôle. Évidemment, je vais recruter des gens qui parlent ma langue, qui sont capables de refaire des relectures et évidemment qui connaissent le jeu de rôle.
Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va aussi... j'ai recruté des gens qui ont la même couleur de peau que moi, qui sont du même genre,
Alors, ceci dit, je suis en train de me faire une petite réflexion.
Même milieu social, même...
Je me fais la réflexion que quand j'ai fait relire Sans Chaos Cosmo, j'ai fait appel, effectivement, à des gens qui avaient déjà lu les livres précédents.
De toute façon, ne bats pas culpe. C'est pas ça.
À des gens,
C'est pas ça le problème, remarque. C'est juste qu'en général, dans les études de recrutement en RH, voilà, on le sait.
Mais si, c'est un problème.
Coucou.
Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, encore ? T'es toujours là. Bah, Jérôme, oui. C'est avec
toi. Jérôme S. Sauvage apparaît.
Je sors de l'atelier. T'oublies Bernadette, quand même.
Oui, qui est toujours extérieure. Mais elle a déjà lu les sens précédents.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Elle n'est pas joueuse,
mais... Est-ce que c'est une fan de sens ? Est-ce que...
Non, mais elle est fan de sens. Elle a pas monté une table.
Alors là, pas du tout. C'est là-dessus, à ce niveau-là, c'est vraiment...
T'en sais rien si elle a pas monté une table de sens...
Pirate. Alors là, si je peux te jurer, je suis sûr qu'elle n'en a pas monté. En tout cas, c'est probablement ma relectrice la plus exigeante. Mais en matière d'orthographe, pas en menti. Mais quoique, elle corrige aussi parfois la signification de certains trucs. Mais bon, bref. Non, Bernadette, elle a lu les précédents bouquins, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, bref, peu importe. Ok, je comprends. Et du coup, ça, c'est problématique.
Oui.
Mais pourquoi ?
Ah, pourquoi ? Donc, en poursuivant cette logique-là, déjà, il y a des éléments assez évidents qui sont que des fan designers, en quelque sorte, c'est la façon dont on pourrait les appeler. Ils sont hyper talentueux pour fixer tous les petits détails, régler, équilibrer des choses dans un jeu donné, mais c'est pas eux qui identifient le mieux les gros problèmes qui font qu'il y a
une masse de gens qui ne pourront pas accéder.
C'est pas eux qui vont pouvoir se mettre à la place d'un public potentiel, mais que le jeu écarte. C'est pas eux du tout c'est ceux qui sont le plus distants de l'expérience d'un nouveau joueur, par exemple, qui est nouveau dans un jeu de ce genre, ou dans un jeu de cette série, ou dans un univers donné, etc.
C'est marrant, ça me rappelle l'article que je t'ai envoyé en privé, Romaric, l'autre jour, sur
Les Lego.
Le design des Lego, une interview de deux designers qui bossent sur les Lego Star Wars et qui expliquent qu'ils ont des fans de Star Wars à qui ils demandent de faire des retours, qui sont généralement un peu pète sec, hein, qui veulent le truc absolu à l'échelle assez grande et bien réaliste. et bien réaliste comme dans les films, alors que ça fait partie du cahier des charges de Lego. On fait beaucoup pré-tester à des enfants.
Oui.
Et les enfants, eux, un de leurs critères principaux, c'est est-ce que je peux prendre le truc dans ma main et faire vignon avec quoi.
Complètement. Ah,
D'où les
microfighters. Les microfighters, il adore. Il aime pas en fait les gros vaisseaux, sauf s'il peut ouvrir, comme c'est le cas pour le Faucon Millenium là qui est à ma droite, où il peut ouvrir en fait le truc pour jouer à l'intérieur. Mais sinon, il ne joue qu'avec les microfighters.
Et les micro Star Wars, ont eu un succès fou lors des playtests auprès du public d'enfants. Et ça marche.
Et en plus, c'est pas cher.
Et ils avouent eux-mêmes qu'ils préfèrent sacrifier un peu de réalisme et d'échelle au plaisir de manipulation, quoi. Je vois Antoine donc, qui sourit.
Oui, pourquoi ? Vas-y.
J'ai des idées qui viennent en tête pour la suite, mais ça sera au fur et à mesure que ça se déroule.
D'accord, ok. Donc du coup, constat, les fans sont très très bons pour régler les micro-détails, c'est-à-dire moi, ce que j'appelle les problèmes de fond de tiroir.
Oui.
Est-ce que c'est cohérent dans l'univers créé depuis jusqu'à maintenant ? Enfin, tu vois, est-ce que c'est cohérent que telle chose ait lieu ? Par contre, ils sont pas bons quand il s'agit de mesurer si le jeu va toucher ou être accessible pour un public qui n'est pas évidemment familier avec cet univers. Valentin.
Super intéressant. Là, je me pose toute la question de savoir à quel point tu différencies la conception versus playtest. Parce que là, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est dans l'équipe de conception, c'est voilà, un potentiel problème qu'il n'y ait que des fans du jeu. Alors que moi j'aurais tendance à penser que c'est surtout dans l'équipe de playtesters qu'il est important là d'avoir la diversité du public cible, tu vois.
C'est vrai que les playtests peuvent contribuer partiellement à résoudre ce problème,
Antoine.
Mais le fait de, dès la conception en amont, d'avoir pas ou peu de joueurs qui ont un profil différent que les joueurs fans, c'est déjà quelque chose qui va biaiser le développement, qui va parce qu'en fait c'est logique que les designers dans cette optique là vont être plus sensibles aux arguments et aux retours de certains des joueurs et pas à d'autres. Va y avoir quand même, les playtests peuvent contribuer à réduire l'impact de ce problème, mais ils vont pas le résoudre complètement à eux seuls dans tous les cas.
Jérôme,
ça me rappelle une autre anecdote rigolote sur une fois sur Another Day on Facebook, il y avait un débat sur une règle du jeu de rôle Chaillot, parce que moi j'aime bien citer les noms, qui était une règle.
Le jeu de rôle du 7ème, c'est
vrai. Voilà, Chaillot, et une règle qui est vraiment toute pétée, qui date de Vampire, première édition, qui a été virée, vraiment le truc chiant, quoi. Je ne sais plus exactement, je pourrais le retrouver si vraiment ça intéresse des gens. Et donc. Il y a eu des débats, et un des auteurs du jeu est venu pour dire « Oh, non mais ça, non mais pendant nos playtests, on n'utilisait pas ce système, nous, de toute façon. »
D'accord.
C'est-à-dire qu'avec ses potes, il employait carrément un autre système que celui qu'ils ont vendu, quoi. Et en disant « Mais je le mettrai sur mon blog plus tard. » Lui, je ne vais pas le citer, mais bon, ça peut se demander en privé.
Mais d'accord, mais pourquoi, quel rapport avec la conversation qu'on avait tout de suite ?
À mon avis, il y a de ça. Parce que le playtest, là, n'a rien réglé. Il y a des fois où ça ne suffit même pas. Parce que le playtest va être de la rillette. Et de la rillette que tu ne vas même pas mettre dans ton bouquin. Ça va être ta recette à toi. Et tu vas la mettre sur ton blog un jour. Mais de toute façon, dans le bouquin, tu auras mis le truc que le cahier des charges attendait de toi. Un 10 sur 20, ça suffit, quoi.
D'accord, ok. Ouais. Antoine.
Continuons, je vous explique la suite des idées qui sont énoncées dans la vidéo Extra Credits. Aussi, les fan designers, ils ont l'habitude des éléments du design qui sont bizarres, qui sont pas intuitifs, à tel point que s'ils sont habitués et qu'ils peuvent les trouver cool, pour eux, enlever ces éléments-là.
Le public, s'il vous plaît.
Le public est brillant.
Un peu de concentration.
Ça vous intéresse pas ce que je raconte. Alors je reprends pour les deux du fond.
Tout à fait. Antoine. Donc en fait, en gros, tu dis. Pardon, excusez-moi,
je finis ce point-là juste. Je t'en prie. Donc, et même pour un designer qui est fan d'une série depuis longtemps, enlever un élément qui est bizarre, qui n'est pas intuitif, qui est nul en affordance, je ne sais toujours pas comment traduire ce concept, mais c'est une espèce d'accessibilité intuitive, l'affordance. Pour eux, même résoudre ces problèmes-là, enlever ces éléments étranges, de leur point de vue, ça rendra le jeu moins bon parce qu'ils ne retrouveront plus les plaisirs qu'ils avaient aux éléments bizarres du jeu, toutes les private jokes que ça peut générer dans les communautés de joueurs, de dire « Oh, mais oui, c'est un problème, mais c'est marrant, c'est bizarre, etc. »
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont habitués à quelque chose qui dysfonctionne, enfin, qui pourrait paraître dysfonctionnel pour les communautés extérieures, mais comme ils s'y sont tellement habitués que c'est devenu en fait une partie intégrante du gameplay du jeu qu'ils aiment, et si tu leur retires ça pour rendre le jeu plus accessible à l'extérieur, eux se sentent dépossédés de leur.
Eux, ils voient ça comme une
intrusion.
Rendre le jeu plus mauvais, alors
rupture du contrat, quoi, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. Putain, mais... en plus, j'en ai déjà parlé, mais ils sont beaucoup plus susceptibles d'écouter les plaintes et les idées de la partie de la population des joueurs qui sont les joueurs hardcore, les plus investis, etc., plutôt que les autres. Et à plein de niveaux, tout ça, et moi, je vais faire le lien avec le jeu de rôle bientôt de façon plus claire, tout ça, ça a tendance, quand ça a lieu, à empêcher les jeux de changer et d'évoluer, ça les rend ça plus difficile de faire qu'ils s'adaptent avec l'époque, qu'ils se modernisent, et surtout, ça les rend moins accessibles à une nouvelle audience. Le point principal, c'est que ce que ça fait, c'est que les jeux vont renforcer les points qui plaisent aux joueurs hardcore, expérimentés, de longue haleine, les release routards, etc.
Et, oh, je sens arriver ton sujet, là.
Et pas du tout pour les potentielles audiences nouvelles, ça se trouve, pourraient beaucoup aimer ça, mais pour ces raisons, c'est pas accessible. Voilà, privilégier un public déjà fidèle, déjà acquis, et le 1% de ce public qui est le plus hardcore gamer, et pas les publics nouveaux possibles.
Valentin.
Pour ménager un tout petit peu le suspense, du coup, et pour bien comprendre...
Je crois qu'il vient de péter le suspense.
Ouais, c'est ça. Pour bien comprendre, en fait, est-ce que tu aurais un exemple ou deux de jeux vidéo, de séries de jeux vidéo ? Je sais pas si dans la vidéo ils en parlent ou pas.
Dans la vidéo, ils donnent pas d'exemple précis, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais, trouver un exemple précis, c'est pas si évident que ça. Typiquement, il y a des genres particuliers de jeux qui sont le rétro gaming et beaucoup dans l'optique de pas de tenir un nouveau public, mais de redonner à un public déjà existant des types de jeux qu'il a apprécié, etc.
Tu penses à Super Meat Boy ou des trucs comme ça?
Super Meat Boy, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du rétro gaming.
Justement, je prends un exemple un peu ambigu exprès.
Non, Super Meat Boy, Super Meat Boy, il est très 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 bien fichu en termes d'accessibilité et de pédagogie et de progressivité de la difficulté. Donc c'est pas mon exemple. Mais je pense à, enfin, un exemple au hasard, mais il y a plein des jeux de rôle vidéo pour le coup qui sont vendus avec comme argument de vente principal que c'est des jeux à l'ancienne avec beaucoup de texte, avec beaucoup de narration, où les systèmes sont très compliqués, où on est dans une optimisation à fond et qui sont difficiles à de rentrer dedans si t'as pas déjà joué à des jeux à l'époque, des héritiers spirituels de Baldur's Gate, des héritiers spirituels de choses à l'ancienne, voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des exemples.
Je crois que dans le public il y a des exemples, je suis pas sûr.
François, quand on parle de ce genre de difficulté d'accès dans des jeux un peu ciblés sur des communautés hardcore gamers, voilà, ce qui me vient en tête, c'est les jeux qu'on appelle les 3E, les jeux basés sur les techniques de jeu de Civilization, par exemple Sid Meier. Tous ces jeux de gestion avec des hexagones sur une carte, avec des villes, des cités, des machins, ou des gestions de ressources, des routes, tout ça, il y a toute une flopée de jeux de ce genre-là qui ne prennent plus la peine de s'expliquer en se basant sur le fait que tout le monde sait jouer à... Enfin, que tous les clients de ce genre de jeu sauront jouer à ce qu'est un 3E, sachant que ces initiales-là viennent de...
Ils viennent formuler
à la
presque
base,
mot pour mot.
Des trois axes de ces jeux-là, c'est le Explore...
D'ailleurs, on sait même plus ce que ça veut dire ces trois lettres.
Et un autre terme en E.
Écrasé.
C'est les 3X.
4X. Je sais
pas. Ah oui, les 4X, ça me dit quelque chose, moi.
C'est peut-être ça, alors oui. Enfin, bref.
Expand, je sais pas quoi. Bon, écoute, t'as fini de parler en dehors des micros, bon. Valentin, là. Oh!
Enfin, je me plante peut-être d'anagrammes, les fans de ce genre de jeu me tueront, c'est pas très grave.
Non mais on voit bien l'idée, t'inquiète.
Le genre de shoot 'em up, c'est un très bon exemple qui me vient à l'esprit, qui sont des jeux qui ont tendance à gagner beaucoup en complexité, en difficulté, et à toujours rester dans le même... Les jeux de combat en versus aussi.
Les jeux de baston 2D, c'est ce que
j'ai dit. Les jeux de baston 2D, c'est les jeux de baston inaccessibles.
Je peux être complètement coupable.
Combo ou pas combo, de façon générale, les jeux de versus ont un côté très dur à accéder. Rarement, il y aura des efforts pour créer des tutoriels, des phases d'apprentissage progressives. Souvent, tu es plongé dans le bain du jeu compétitif et c'est devient meilleur ou débrouille-toi.
Quand on n'a jamais joué à un jeu de combat, c'est impossible.
Je pousse ça complètement, François. Et moi, je peux être coupable. Je suis super fan des jeux de Arxis, donc Guilty Gear, BlazBlue, des jeux de baston en 2D extrêmement techniques et complexes.
Je pense qu'ils sont très bien hein, quand on est spécialiste du domaine, mais y accéder, c'est juste pas possible.
Peut-être un exemple console qui parlera aux gens de ma génération, c'est Metal Gear 4. J'ai eu l'impression, quand j'ai joué à Metal Gear 4 sur PS3, grâce à Valentin qui nous a donné sa console de jeu, que...
Faudra qu'on en parle, du coup.
Que, en fait, ils avaient gardé un système de gameplay très très lourd du point de vue qu'ils auraient pu alléger le système de gameplay de Metal Gear dans le 4 et qu'ils n'ont pas fait parce que sinon ils auraient perdu les petites routines et régularités qu'on avait acquis avec le 2 et le 3.
C'est quoi le sous-titre de Metal Gear 4
C'est
Sons of
Liberty.
Ah non, c'est le 2. Je sais
ça
plus.
C'est le 2. Alors ce serait Guns of Patriot.
Ouais ouais. Plutôt hein, ça.
D'accord, j'ai pas joué.
Oui, Phantom Pain, ouais. Ça va être le 5.
Phantom Pain, c'est le
moi,
5.
Moi j'ai joué à Phantom Pain qui est le 5, mais j'ai pas joué à celui-là.
Ok. Voilà un exemple qui me vient pour les jeux consoles. J'ai eu la sensation aussi, durant quelques années, notamment au niveau des JRPG, qu'il y avait sur console cet élément-là, c'est-à-dire qu'on gardait des éléments de gameplay qui étaient vraiment datés, vraiment anciens.
Avec des murs de statistiques différentes.
Ouais, pour pas perdre une certaine forme. Par exemple, tiens, j'ai un exemple qui me vient en tête. Alors, il n'est pas très bon, mais je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas très bon. Mais il y a notamment, à un moment donné... Sakaguchi et Nobuo Uematsu ont été qui sont respectivement le compositeur de la musique de Final Fantasy et l'exécutif de Final Fantasy des Final Fantasy 7, 8 et 9, mm-hmm. ont été dégagés de l'aventure Final Fantasy.
Nobuo Uematsu, il était déjà sur la musique avant aussi, hein. Était au moins sur FF6.
Il était sur... Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des gens qui sont des auteurs emblématiques des Final mm-hmm. Fantasy qui ont fait l'histoire de Final Fantasy. Le 6, le 7, le 8, le 9, c'est voilà. Et ils ont été limogés de l'équipe à un moment donné. Et ils ont fait, à côté de ça, une série qui s'appelle les Lost. Lost Odyssey, Lost Story, qui sont une série à part. Pendant ce temps-là, Final Fantasy a gardé Squaresoft a gardé une nouvelle équipe, dirigée notamment par le card designer. Mm-hmm. Et ça a donné FF13, ouais. etc.
Et déjà, il y avait déjà eu un autre twist, un autre changement d'équipe quand ils avaient viré Amano pour mettre Nomura, qui était un designer de monstres. Ils s'est retrouvé designer de tout l'univers.
Merci Jérôme, parce que j'avais oublié leur nom. C'est très
mais
bien.
Amano et Nomura, c'était déjà à l'époque avant.
Et donc, tout ça pour dire qu'on voit bien que Nobuo Uematsu et Sakaguchi ont gardé... le JRPG à l'ancienne. Dans les Lost, c'est clair, on a affaire à des JRPG qui s'adressent aux fans de FF7 et qui restent dans la continuité. Là où Squaresoft a pris une autre décision, qui est d'alléger toujours plus le système de combat.
Ce qui lui a été beaucoup reproché par les fans, en fait. Hein.
Ouais, notamment
les
fans hardcore. Du 12,
ouais. Ou le
jeu
13.
De la canapé.
Non, mais le 13...
Le 13,
rejeté par les fans hardcore. Ouais.
Là, ça me semble être un exemple peut-être plus populaire, puisqu'on parle de console, et en tout cas dans ma génération, de cet effet, de cet effet-là.
Et c'est important ce que tu mentionnes, la Valentin, parce qu'effectivement, quand il y a des risques qui sont pris pour rendre un jeu plus accessible, pour essayer de renouveler un peu les choses, de recréer une nouvelle expérience ou un peu différente... Ce qui est particulier, c'est que dans les communautés de joueurs, ceux qui vont le plus exprimer leur opinion, c'est les joueurs assidus hardcore d'une série. Et donc forcément, du point de vue d'une entreprise de jeux vidéo, les voix qu'ils entendent le plus sont celles qui leur disent de continuer dans le même genre de truc.
Les conservateurs.
De continuer à approfondir les systèmes déjà existants. Et du coup, c'est assez logique, en fait, en amont, d'avoir l'impression que c'est plutôt risqué de tenter d'aller plus vers l'accessibilité et que c'est plus logique et plus prudent de se dire voilà, j'ai ma base de joueurs.
Tout à fait. Je prends pas de risque.
Je fais mon prochain jeu. À qui j'ai envie de le plus plaire parmi tout cela? Bah, j'ai aussi envie de plaire le plus aux joueurs qui m'ont donné le plus aussi, qui sont les plus actifs sur les forums, qui sont les membres de la communauté les plus présents, ceux qui ont joué le plus grand nombre d'heures. J'ai aussi envie de les récompenser quelque part pour
leur fidélité.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a des logiques encore pires.
Mais j'ai quand même un peu l'impression que, François. De par ce côté-là, dans la production, on va rejoindre des choses qui ont été dites sur le podcast sur la nostalgie.
Oui.
Alors, parce que, en fait, on va répondre à la nostalgie de joueurs sur des jeux anciens et on va essayer de faire des jeux qui sont plus des suites plus fidèles que de meilleurs jeux.
Valentin, tu voulais ajouter quelque chose ?
Alors, moi, je vois pas ça comme un problème, en fait. C'est-à-dire que peut y avoir simplement des jeux designés pour des publics différents. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un nombre d'heures dans un jeu qui est complètement incalculable fait qu'à un moment donné, t'as une culture de jeu qui te donne accès à une compréhension ultra fine du gameplay et donc beaucoup d'outils, Romaric dirait un langage, que tu n'aurais pas accès si tu es nouveau joueur. Donc en fait, ça donne à des gens qui ont déjà des outils et des connaissances en termes de gameplay, une expérience de jeu qui les fait kiffer, et ils sont acheteurs et tout le monde est content, quoi.
Ok, Valentin vient de lâcher le truc que je me retenais de dire depuis tout à l'heure, mais ouais, en fait, c'est, en fait, le reproche, c'est quoi? C'est de ne pas viser un public assez large. En fait, enfin, en quoi est-ce que c'est si mal?
Alors,
du coup, enfin,
déjà, c'est pour
de
ça.
De pas avoir un public large.
J'adore. Que,
si tu veux avoir un public restreint, pourquoi pas, tu vois?
Il y a une subtilité qui est importante. Déjà, c'est important que le titre de la vidéo d'Extra Credit, c'est ne recrutez pas seulement vos fans. C'est pas ne recrutez pas vos fans. C'est une question de proportion qu'il faut dans toute équipe. Peut-être même pas la moitié, mais au moins quelques personnes qui vont avoir un point de vue un peu différent, qui vont
profane,
pouvoir
hein.
Les naïfs de la cellule, hein. Les naïfs qu'on aime bien avoir à la cellule, mais
exactement.
Oui, mais ça fait partie de la méthodologie de la cellule d'avoir des naïfs.
Alors là, complètement.
Et surtout, là, on parle pas que d'une optique de viser un public, mais on parle de concrètement qui crée les jeux. Inévitablement, et dans le jeu de rôle c'est encore plus prononcé, là on va commencer à faire vraiment le pont, dans le milieu du jeu de rôle, restreint comme il est en termes de taille, en termes d'ampleur, qui crée des jeux de rôle si ce n'est des rôlistes hyper expérimentés qui ont des années de pratique, qui ont leur routine, qui ont leur vue sur le média, et qui sont des passionnés et qui sont le top des joueurs les plus investis, qui vont devenir auteurs de jeux de rôle, créateurs de jeux de rôle, et encore plus dans les jeux.
Donc là, tu es en train d'appliquer à un média une logique que Extra Credit n'applique qu'à un jeu.
Non, le
jeu vidéo, c'est
l'idée, c'est d'appliquer à une industrie.
Voilà.
À une logique industrielle donnée, celle du jeu vidéo. Le même raisonnement à une autre industrie. Alors la question, c'est est-ce que la différence entre ces deux industries, qui est de taille, c'est la différence,
oui, bien sûr,
nous permet quand même de faire ce transfert du raisonnement. Et là, c'est une question que je te pose, tu vois. Mm. C'est-à-dire, est-ce que le fait que le jeu de rôle, voilà, est avec cette taille beaucoup plus restreinte, est-ce que ça amplifie le phénomène? Est-ce que ça le restreint? Est-ce que c'est différent? Je sais pas, tu vois, j'ai aucune idée, je te demande.
Bah moi, le moment où je...
Ton intuition, Antoine, là-dessus.
Voilà, le moment où je fais le pont et l'intuition qui m'est venue en écoutant cette vidéo et en la transférant en jeu de rôle, c'est le constat que je fais de l'évolution du jeu de rôle depuis sa création, qui pour une grande partie de son histoire...
Mais tu vois, t'es en train d'appliquer... Enfin,
ouais,
vas-y, mais...
s'inscrit complètement pour moi dans une logique de approfondissement de gameplay existant pour plaire aux joueurs assidus les plus expérimentés, etc. Et pas ou peu dans une logique d'avoir des points de vue de profanes qui pourraient rappeler attention, on fait attention à l'accessibilité, attention à un joueur nouveau du jeu de rôle complet, qu'est-ce que ça donne, à quoi ça ressemble. Toutes les logiques, c'est un peu des choses qu'on a mentionnées, mais le jeu de rôle classique, on sait comment ça marche. Et si tu es
des
nouveau,
gens qui ne
c'est pas,
pas
au jeu d'être accessible, c'est à la table, ouais, de faire l'initiation. Tous ces éléments-là
ont déjà été dites dans, oui, ces micros sur le jeu de rôle, doit-il s'expliquer,
voilà.
Oui, mais il me semble qu'il y a un glissement, et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que le conseil d'extra crédit s'applique à un jeu donné, à une licence, à un jeu. L'extrapoler dans le cadre d'un média comme celui du jeu de rôle, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire,
bah non, le conseil d'extra crédit,
un jeu, il s'applique à
toute l'industrie du jeu vidéo,
l'industrie dans, ouais, la production de jeu,
mais dans la production d'un jeu particulier. C'est-à-dire, quand il dit ne recrutez pas vos fans, il dit bien pour un projet donné.
Bah comme pour le JDR,
oui,
enfin.
Dans le JDR, ça fait de la même manière. Ouais, c'est ne recrutez pareil. Pas les fans de votre dernier jeu pour faire, voilà, le prochain. C'est...
Les gens qui vont faire Donjons & Dragons édition 6, ne recrutez pas que des fans de Donjons & Dragons.
Oui, d'accord. Oui.
Tu vois.
Oui. Je j'arrive pas à exprimer ce que je veux dire. Ouais. Vas-y, non mais je t'en prie. Ok, très bien. Et donc, ne recrutez pas que des fans de Donjons et Dragons, ouais, d'accord.
Recrutez des gens qui même n'aiment pas Donjons et Dragons et sauront expliquer pourquoi.
Pourquoi ils n'aiment pas. Ouais.
Pourquoi ils n'aiment pas, et peut-être il y a des éléments de Donjons et Dragons qui peuvent être modifiés pour que moins de gens ne l'apprécient pas, sans nuire aux aspects qui marchent bien.
Alors, qu'est-ce que tu conseilles à un... Mettons, bon, voilà, je veux créer un jeu de rôle, d'accord,
ouais.
J'ai envie de créer un nouveau jeu. Qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que dans l'idéal, qui dois-je recruter?
Alors, c'est là
dans l'idéal,
difficile,
alors,
parce que...
sachant que je ne peux pas recruter le monde entier.
Oui, c'est ça.
Hein, d'accord.
C'est là où le glissement va être compliqué, c'est que dans le milieu du jeu de rôle, il y a une notion de... En fait, dans le jeu vidéo, même indépendant, il y a presque toujours une notion d'équipe. de travail.
D'accord.
Donc là, la notion de recrutement, la notion de travail de groupe est plus pertinente que dans le jeu de rôle indépendant, que dans... Oui, Valentin ?
Bah, y a un truc qui me vient là, c'est simplement quand tu as un groupe de playtesters et de gens qui réfléchissent au jeu de rôle dans sa structure initiale. Si on est tous à être fans des jeux précédents, d'un même type de jeu, en fait, il y a plein de choses qui vont nous paraître évidentes. Et quand on va commencer à playtester, à crash tester, en fait, il y a tout un tas de procédures où c'est genre de l'évidence pour nous. Tandis que si on recrutait quelqu'un d'une complètement autre culture de jeu, quand on commence à jouer, là, on voit déjà les problèmes qui peuvent émerger. Donc, c'est plutôt pas dans moi, auteur de jeu, à quel point je m'associe avec des gens pour créer des jeux, mais c'est plutôt dans si jamais j'ai un groupe de gens avec lesquels je réfléchis à la conception de mon jeu. Ce que je conseille de faire très vivement, à titre personnel. Alors, dans ce groupe de jeux-là, ne soyez pas qu'avec des gens qui, voilà, on est exactement le même goût que vous, ce genre de choses. Si je fais l'analogie, c'est une proposition.
Et pour aller plus loin dans le cadre du playtest, c'est même, il faut faire des playtests avec uniquement des joueurs profanes. Parce que même s'il y a 5 joueurs profanes et un joueur habitué au jeu donné, lui, il aura des routines de compensation qui pourront faire fonctionner des choses qui, ça se trouve, sont délicates et que le playtest ne révélera pas. Dans le cadre du playtest, c'est un peu particulier, c'est même pas une proportion de la base de playtest qui doit être profane, c'est, au moins pour certains playtests, l'intégralité de...
Alors non, je suis pas d'accord, parce que c'est que... Alors, en fait, il faudrait faire des playtests avec différentes conformations. C'est-à-dire un playtest avec que des profanes, un playtest avec des profanes un playtest avec que des experts. Est-ce que c'est intéressant, pertinent, etc. Mais après, la question du playtest n'est pas la même que la question de la conception. La question du playtest est plutôt la question du public cible que la question du recul de conception, à ce que j'ai compris.
Il y a un truc qui me pose fondamentalement problème et j'en reviens à ce que tu disais, Jérôme, tout à l'heure. Jérôme, tu voulais intervenir ?
Oui, mais vas-y, Romaric.
On dit « il faut faire ». Mais pourquoi
C'est moi qui dis.
Alors, voilà, moi c'est pourquoi le pourquoi
faire.
Je suis tout à fait d'accord.
C'est pour ça que je voudrais revenir à la réflexion de Jérôme.
Attends, j'ai pas fini. J'ai une réflexion à apporter là-dessus.
Eh ben, je t'en prie.
Vas-y. Ok, bon. Alors, je me réponds tout seul. Dans le jeu vidéo, effectivement, ça me semble pertinent de donner ce genre de conseils.
Ouais.
Pourquoi ? Parce que, c'est pas toujours vrai. Et ça peut être, l'inverse, c'est pas toujours faux dans le jeu de rôle non plus. Hein, donc, je suis pas absolu. Mais le jeu vidéo, ça coûte une blinde à développer. Faut des locaux,
Le jeu de rôle, tu crois que
ça coûte une blinde.
Ça coûte principalement du temps. Tu compares au jeu vidéo ?
Non mais je suis d'accord. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, en termes d'échelle, c'est-à-dire que le temps qu'un individu passe à investir, tu vois.
Oui, mais c'est du temps. C'est pas du pognon.
Ouais. Bah, et alors du coup.
Ouais, mais dans le jeu vidéo, l'impact est pas le même.
Avec des chèques à 6 chiffres pour le budget de minimum pour le budget d'un jeu vidéo.
Oui, mais le prix.
Attends, j'aimerais finir.
Accepter l'hypothèse de Jérôme. J'aimerais finir. Ouais.
Quand t'as des budgets à 6 chiffres, à 7 ou minimum, grand minimum à 5, c'est pas que du temps. C'est que ça peut te ruiner, ça peut te coûter ta maison, ta vie, tes enfants, tout. Donc à partir de là, effectivement, ton jeu, tu as intérêt à ce qu'il marche pour rentabiliser. Ce coût qui, lui, sera incompressible. C'est pas simplement du temps, ça peut te tuer. Et alors qu'en jeu de rôle, du coup, je me dis, si j'ai envie de faire un jeu qui va intéresser 200 personnes, pourquoi pas ? Je veux dire, ça ne m'aura pas coûté ma maison. Du coup, je trouve le conseil moins pertinent en JDR qu'en jeu vidéo.
Pourquoi il est moins pertinent ? Jérôme, allons au bout de ta logique. Parce qu'il y a de l'investissement financier. Et donc, en fait, quand on dit « il faut pourquoi faire pour vendre plus ?»
Exactement, oui.
Pour vendre plus. Pour vendre plus, pour diffuser plus, pour rendre plus accessible. Et toute la question, c'est est-ce que oui ou non, un jeu X ou Y doit être plus accessible ? Il y a des jeux dont le propos est d'être plus accessible. Il en est d'autres dont le propos est au contraire de l'être de moins en moins. C'est-à-dire, ce serait cool si les jeux qui traitent, par exemple, de sujets graves comme, un sujet grave soit de moins en moins accessible parce que ce sujet grave cesse d'exister dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, il faut rendre accessible quelque chose, oui, aussi longtemps qu'il est pertinent, aussi longtemps qu'il a quelque chose à apporter, soit financièrement, si on est dans une logique purement économique, donc de produit, soit du point de vue de son propos, si on est dans une logique d'œuvre. Et donc,
C'est bien ce que j'avais en tête.
Ouais. Oui, mais alors, attends, parce que c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand, si on va tirer sur cette pelote et on va voir arriver, à mon avis, une espèce de paradoxe. Si, et c'est là que c'est difficile à exprimer. Si on considère le média en général, on est d'accord qu'autour de cette table, en tant qu'auteur de jeu de rôle, en tant que joueur de jeu de rôle, on a envie, ou tous intérêt, que le jeu de rôle, en tant que média, soit de plus en plus accessible.
Oui, oui. C'est ça le...
Qu'il se répande en termes en tant que pratique, qu'il devienne plus respecté, ou voilà, ce genre de choses.
Donc, en tant que média, on a tout intérêt à faire playtester un maximum de jeux à un maximum de gens, considérant que par là même, celui-ci sera accessible à plus de profanes. Mm-hmm. Seulement, aujourd'hui, on constate, et c'est... Enfin, aujourd'hui, oui, je trouve que ça tend à se démocratiser... Oui, oui. Mais avant, on constatait qu'effectivement, le jeu de rôle s'adressait uniquement à un public de fans. Ouais. Hein, c'est ce qu'on a condamné, ce qu'on a déjà bien expliqué dans ce qui s'est passé dans les années 90, on va dire, pour faire simple, 90-2000, où les jeux de rôle ne prenaient même plus le soin d'expliquer le système de jeu classique. Mmh. Et où ils considéraient que, de toute façon, la personne qui tombait sur ce livre était fan de jeux de rôle classique, et donc il n'avait pas à avoir à se faire réexpliquer. Et ça, on en a moult fois parlé.
Et puis, on a déjà dit aussi que, de toute façon, les jeux qui se vendent encore le plus de nos jours, c'est les 21e rééditions de jeux connus.
Voilà.
Enfin, voilà.
Donc, dans une logique de médias, on aurait intérêt à multiplier les playtests avec des communautés diverses et variées de façon à ce que le média... Mais est-ce que ça s'applique à une logique d'un jeu particulier ?
Alors non, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas intérêt à, nous, moi, faire plus de playtests. On a intérêt à ce qu'il y ait plus de jeux dans le paysage des jeux de rôle qui sont créés qui ont pour volonté d'être plus accessibles. Pas que tous les jeux de rôle soient plus accessibles.
Ça, c'est un fait, toujours dans une logique de média. Maintenant, si j'applique ça à une logique de jeu, si j'applique ta recette,
ça dépend de ce qu'on veut faire.
Mon jeu sera nécessairement un produit, puisque si je veux qu'il soit accessible à une majorité de gens, je le crée dans le but d'en vendre le plus possible, de le diffuser le plus possible, et je dois faire rentrer dans ma logique de création des éléments qui ne sont plus de l'ordre du propos, mais de l'ordre de la commercialisation, de l'adaptation de l'objet à un public donné, et donc rentrer dans une logique de produit.
Romaric,
Valentin, François.
On peut aussi faire François. Un jeu qui va aller dans quelque chose de très profond et qu'on rend accessible d'une manière ou d'une autre. Je pense à Sens Renaissance, c'était ton objectif. On peut le penser raté, tu répètes souvent que tu penses que c'est un jeu raté, mais en tout cas, c'était bien l'objectif que tu avais derrière, de rendre accessible une pratique.
Est-ce que je peux répondre avant de te passer la parole, Valentin?
Il y avait bien une démarche d'accessibilité derrière ce jeu qui pourtant portait un propos.
Une démarche de piège, c'est pas
c'était
la même
une
chose.
Démarche de piège.
Est-ce que tu dirais pour autant que Sens Renaissance, tu l'as traité comme un produit et non une œuvre?
Eh bien, je pense que
quand ça fait...
oui,
ça
de
fait partie du
propos. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. Ça faisait partie du propos qu'il soit vendu comme un produit. Pour finalement amener les gens à le penser comme une œuvre. Mais c'est vrai que... C'est... Ah ok, tu cites un cas limite. Je vais donner la parole à Valentin.
Ouais,
je vais
juste pour, donc là, juste pour dire que je pense que ça dépend de effectivement, ce que tu appelles le propos, pour reprendre ta logique. Mais si ton propos, c'est l'accessibilité.
Ah, voilà.
Parce qu'il y a des auteurs
c'est
de jeux,
c'est ce qu'on dit pour Sens Renaissance.
Ouais. Mais l'accessibilité à un public le plus large possible.
Ouais.
Par exemple, dans les cours alternatifs, les gens se posent vraiment la question de savoir, par exemple Gaël Sacré avec Happy Together et plein d'autres jeux,
oui.
De se dire à quel point, voilà, à quel point on veut faire des jeux dont le propos est notamment
De jouer avec ma grand-mère.
D'être le plus accessible possible, mais pas pour une logique de produit. Quoi. C'est pas pour gagner plein d'argent. Je pense que nous en sommes loin de là. Donc, mais on peut réconcilier, tu vois, plusieurs choses à la fois.
Oui, tout à fait. D'accord, très bien. Donc, c'est
même
pas
un
une posture
jeu
paradoxale.
Gratuit a intérêt à penser à son accessibilité.
Néanmoins, je reste convaincu que ce conseil qui nous est donné là par Antoine, indirectement puisqu'il nous apporte ce sujet de podcast, ou en tout cas sur lequel il nous attention à ce conseil, parce que en fait, quand on dit il faut faire tester le jeu. À une majorité de gens, etc. Il faut, oui, mais dans quel but ? Il faut bien fixer les objectifs, tu vois. Si c'est pour une raison commerciale ou si c'est pour une raison politique d'accessibilité du média, tu vois, c'est pas la même chose.
Je me rappelle pas exactement de la vidéo en question, mais je suis la chaîne Extra Credits également, et il me semble que dans la démarche de cette chaîne, il y a quand même l'idée que les jeux vidéo sont une forme d'art, qu'ils doivent servir à porter un propos et à monter en qualité et à s'éloigner d'un pur produit commercial. Donc je pense que quand ils donnent ce conseil, c'est pas simplement pour augmenter les ventes. C'est aussi pour éviter que les jeux ne restent des jeux de niche qui ne s'adressent pas à des nouvelles populations et que du coup, on coupe les communications en quelque sorte. L'idée, c'est aussi d'avoir une forme d'échange culturel qui continue entre différentes communautés de joueurs et entre les communautés de joueurs et des gens extérieurs qui puissent continuer d'avoir des échanges.
Valentin, après ouais. J'ai envie de répondre.
Ouais. À quel point est-ce que dans la vidéo et pour chez toi, Antoine, il n'y a pas en fait une valeur implicite qui est effectivement l'accessibilité. C'est-à-dire, sans le dire, tu nous dis « Non, non, mais voilà, il faut faire ça, mais en fait, c'est pour être accessible, pas pour forcément faire un produit, mais parce que pour toi, ça te semble important en tant que propos. »
Chez moi, dans ma vision du game design, l'accessibilité et le fait qu'un jeu tire vers le haut, c'est-à-dire même s'il a une difficulté élevée, puisse faire que n'importe qui apprenne à y jouer facilement, c'est quelque chose que, dans ma vision du game design, j'estime comme important.
Tu vois, c'est important à se préciser. Quoi.
Alors, j'ai la sensation, mais alors vous allez me dire, peut-être que je me plante complètement, ça me fait penser à un débat qu'il y a eu récemment sur ces histoires de dans les conventions réservées aux personnes racisées, de salles réservées aux femmes noires, etc. C'est-à-dire qu'il est important... Il est important.
Tu glisses, Romaric ?
Non, non, je glisse pas. Attends, écoute jusqu'au bout. Il y a eu un gros débat là-dessus. Est-ce que, oui ou non, il fallait réserver des espaces pour des gens qui connaissent des difficultés spécifiques pour qu'elles puissent en parler, ces personnes-là ? C'est-à-dire, en gros, les problèmes de transversalité des... Là, il me faudrait Fabien, mais il est fatigué. Mais si... C'est-à-dire... C'est le... je suis désolé.
Qu'est-ce que tu veux, mon
Romaric ? Je suis désolé, Fabien.
Pourquoi tu es en train de me parler en fait, des espaces non mixtes, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Parce que pourquoi alors, attends. Pourquoi je parle de ça ? Parce que
j'ai une théorie sur sens après.
C'est
aussi.
C'est important. attends. Je te jure, c'est hyper important que je vais aller jusqu'au bout de ce truc parce que sinon je vais encore passer pour un affreux. C'est important que ce genre d'espace existe parce qu'à un moment donné, faire de la pédagogie. Il y en a ras le bol. C'est-à-dire que c'est important que les gens qui soient spécialisés, qui soient spéciaux, aient des espaces réservés pour eux dans lesquels ils puissent exprimer leur spécialité, leur spécificité. Et l'idée cardinale qu'il faudrait toujours que ces espaces spéciaux soient accessibles à la majorité des gens, que tout le monde puisse y accéder, etc. Ça peut être contre-productif avec certains propos, avec certaines idées. Et je veux, pour exemple, ce cas-là.
Mais il faut quand même rajouter que dans les espaces non mixtes, donc réservés aux femmes, réservés aux personnes LGBT, réservés aux personnes racisées, etc., c'est pas uniquement pour pouvoir ne pas avoir à nouveau faire de la pédagogie, c'est aussi pour éviter des relations de pouvoir, c'est pour éviter, il y a une dimension politique qui est encore supplémentaire par rapport à celle que tu ajoutes. Donc ta comparaison est cousine, mais pas...
Non, tout à fait. Mais en fait,
attention à l'analogie, dans l'analogie à ne pas effacer les relations de pouvoir dans les espaces dans l'enjeu des espaces non mixtes.
Je te remercie, Fabien, d'apporter cette précision.
J'y repère dans ma...
Mais c'est juste parce que nous, on parle justement d'accessibilité, là, tu vois.
Bah, le gros problème que j'ai dans ce que tu dis là, c'est que j'ai l'impression que tu utilises le terme accessibilité sous deux sens différents.
Ah, très bien, vas-y.
C'est ça vraiment
qui
est différent, c'est que c'est pas du tout la même chose de parler de l'accessibilité. Et en plus, en fait, l'accessibilité, encore plus dans un jeu, qui est une activité ludique, par définition, il y a une interaction et un apprentissage et une forme de challenge, une forme de défi, une problématique, quelque chose auquel se confronter dans un jeu. Que ça soit... ça c'est mes vieilles visions de qu'est-ce qu'un jeu. Mmh. Et l'accessibilité d'une communauté, d'un événement, d'un lieu, c'est pas du tout le même. L'accessibilité des transports publics aux personnes handicapées, c'est pas le même sujet que l'accessibilité l'accessibilité de l'informatique dans l'éducation. Donc là, il y a une vraie différence entre ces deux types d'accessibilité là. Je suis complètement d'accord que encore plus après avoir joué à This Game Contains No, ce sera un autre podcast, mais voilà, un jeu qui, moi, personnellement, me ferait encore plus me dire qu'il faut des espaces pour que des communautés puissent se retrouver en elles sans le regard extérieur de personnes d'autres communautés. Moi, je parle vraiment. Quand moi, je parle d'accessibilité, je parle vraiment de pédagogie. Je vois vraiment le jeu et la conception d'un jeu comme quelque chose qui doit être pédagogue, quelque chose qui doit tirer vers le haut. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans des séries comme Dark Souls, histoire d'en prendre un exemple, les meilleurs jeux pour moi, c'est les jeux qui sont les plus difficiles à la fin et les plus faciles au début, pour tirer tout le monde vers le haut.
Je voudrais ajouter qu'on a dans ces micros souvent parlé dans des playtests de jeux où on avait finalement l'impression d'être un peu passé à côté du jeu parce que les règles n'étaient pas forcément d'une clarté absolue, parce que c'est ça le problème de l'accessibilité d'accord. C'est en fait d'avoir des gens qui sont des profanes dans la création du jeu, ça permet aussi d'inscrire ce qui va paraître être des évidences pour les gens qui sont des fans.
Rendre explicite le jeu clair. Les évidences voilà. qui étaient tacites.
C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du jeu de rôle qui s'explique aussi.
D'accord.
Okay, et dans les micros dans cette saison de la cellule, on a probablement parlé du fait que c'est probablement l'un des défauts de Vademecum.
Oui, c'est prévu, c'est un podcast prévu, ça.
C'est...
Oui, tout à fait.
C'est l'accessibilité au sens.
Bon, je vous ai dit de mettre mon nez dans mon caca, mais enfin, évitez quand même d'aller jusque là.
L'accessibilité au sens où n'importe qui prenant le jeu peut véritablement jouer à ce qu'il y avait derrière. Finalement, c'est une accessibilité qui sert le propos.
Très bien. Ok. Je me demandais s'il n'y avait pas un deuxième élément de réponse à Extra Credit qui est de dire, ok, bon. Nous, on a développé DD4 avec les fans de DD3.5, DD3, DD2, DD1, DD tout ce que tu veux.
C'est peut-être un mauvais exemple, mais vas-y, continue.
Et puis, non, c'est un mauvais exemple. Ah oui, donc bon, bah, mettons, on a développé Machin 5 en ayant avec les fans 4. De Machin 4, Machin 3, Machin 2, Machin 1. Et toi, profane, tu dis que Machin 5 n'est pas accessible. Mais si, il l'est. Joue à Machin 1. Et puis bah voilà. Deviens fan de machin 1, puis tu deviendras fan de machin 2, puis tu deviens refais le
bah, c'est la même logique que les gens qui disent oh cette série elle est géniale, la saison 8 c'est trop cool.
Oui bah c'est pas toi qui me l'a fait pour Doctor Who.
Non, justement, moi Doctor Who ça me tente pas du tout parce que je me dis mais j'ai pas envie de me taper tout ce qu'il y a.
Doctor Who, l'avantage c'est qu'il y a pas besoin de le faire.
Ouais, bah toi t'es fan de Doctor Who, t'écoutes
pas. C'est l'argument fréquent des gens qui veulent mettre quelqu'un à Metal Gear.
Jérôme.
Commence par le premier, tu verras.
Ouais, bah dis donc, le premier, maintenant, il est vachement mal.
Bah ouais, mais du coup, ça marche plus.
Oui, je comprends. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un argument pour Metal Gear. Alors, dans le jeu vidéo, il y a quelque chose qui s'ajoute, je trouve, en termes de difficulté à tout ça. C'est que le jeu vidéo a des progrès techniques aussi et graphiques qui rendent certains jeux proprement vraiment inaccessibles. Et même des contraintes technologiques. C'est-à-dire que, allez me chercher une Nintendo, là, aujourd'hui. Pour jouer à, par exemple...
Alors, on tape émulateur Lolo 2. NES dans Google et on trouve. Hein. C'est interdit. Elle n'est pas encore en accès. Il y en a qui sont suffisants.
Parce qu'il y a la mini
NES. Je ne pense pas. Il me semble que la NES, ayant plus de 20 ans, elle doit être...
On s'en fout. Nintendo a toléré l'émulation pendant des années avant de commencer à être sévère quand ça a pu leur apporter du fric. Allez sur RomStation, les gens, n'hésitez pas. Hein.
D'accord, ok. RomStation, j'adore ce site. Donc, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est difficile quand même d'accéder à ces jeux. Vous dites ça parce que vous êtes des geeks, là, les informaticiens. Mais pour enfin, les
à partir
gens
du moment où on veut, à l'heure actuelle, jouer à un jeu chercher... des années 80, on est un peu geek. Hein.
Non, mais aller chercher un émulateur.
C'est pour ça que le site RomStation, t'as un logiciel qui est comme Steam et où tu télécharges tes jeux en cliquant dessus.
Ok, vous êtes un enfant de 7 ans. Moi, quand j'ai découvert Mario 1, j'avais 8 ans, 9 ans. Vous avez 8 ans, 9 ans aujourd'hui. Aller découvrir Mario 1, tu vois, c'est pas si facile que ça. Je veux dire. Donc il y a des contraintes technologiques qui s'ajoutent. Alors que pour le jeu de rôle, un livre reste un livre. Un texte reste un texte.
Ah, on a le même problème dans le jeu de rôle. Il y a beaucoup de playtests ou de one-shot de la cellule où ce problème a été évoqué pour moi. Les problèmes du type « Oui, mais n'oubliez pas que ce jeu a été publié en 2001. » Cette phrase-là, comment on doit l'interpréter ?
C'est un vieux jeu. À l'époque, telle ou telle chose n'avait pas encore été inventée. Combien de fois on a entendu ces phrases ?
Comme dans le jeu de rôle. En fait, l'idée de rendre les choses accessibles, c'est la même chose que rendre les choses explicites. Et le manque d'explicitation...
pas forcément explicite. Intuitive.
Pas que, oui.
On n'est pas obligé d'expliciter des choses pour que on pousse le... Pour qu'on pousse naturellement le joueur ou le MJ dans le cadre...
Certaines règles sont plus efficaces en étant non dites qu'en étant dites. Oui. C'est ça que vous êtes en train de dire.
Voilà. Mais
et vous n'auriez pas dû dire ça dans le podcast et on l'aurait beaucoup mieux compris, les gars. C'est un humour de logicien.
Mais en oui. tout cas, tu vois, j'ai pas d'exemple en tête de podcast, mais c'est quelque chose de courant.
Oui,
le
tout
côté,
à fait. Oui, non, mais
il y a quand même dans le langage quelque chose à interpréter et à retirer. Quand on manque d'informations sur l'intention de l'auteur, quand on a. Il y a quand même un
certaines phrases ne se comprennent que dans le contexte historique.
Oui, c'est ça, le contexte historique,
dans
le contexte de l'auteur et de sa vision à ce moment-là.
C'est indéniable, d'accord, très bien.
Voilà, il y a des.
Ok. Et tu penses que. Allons jusqu'au bout de la logique, tu penses que si les jeux étaient playtestés par un maximum de personnes, on va
encore une fois, c'est pas que le playtest le problème. C'est vraiment. En fait, si jamais. Dans les...
Parce que la création d'un jeu, ça passe par le playtest, tu vois.
Après, le playtest
oui,
sert à la
même,
réécriture.
Oui, mais si les...
Conception d'un
si
jeu...
Si les concepteurs de... Si la population rôliste comprenait une plus grande proportion de joueurs occasionnels et de semi-profanes, etc., la population de créateurs de jeux de rôle, indépendants ou non, comprendrait une plus grande proportion... De joueurs occasionnels ou de profanes, etc., ou moins de certains types de jeux. Et en fait, si je devais maintenant prendre de la distance avec comment j'ai abordé les choses et formuler mon opinion à moi, c'est pas tant il faut ceci, c'est un souhait. J'ai un souhait que la population rôliste et la population de créateurs de jeux de rôle et d'entreprises qui créent des jeux de rôle, etc., aient juste en proportion davantage de jeux. Et davantage de pratique et davantage à cœur l'accessibilité du média au sens général que ça ne reste pas un média de niche.
Ouais, j'ai l'impression que tu nous décris un cercle vertueux et un cercle vicieux. Le premier cercle vicieux, c'est la communauté de fans est hyper active, mais il n'y a plus qu'elle. Et donc, du coup, on crée toujours un jeu qui parle aux fans, mais du coup, plus il se spécialise et moins il peut être compris par les autres. Et d'un autre côté, une forme de cercle vertueux qui serait que plus le jeu devient joué par énormément de personnes, plus la communauté s'ouvre et plus le jeu, en fait, s'enrichit, vit, etc. Ouais. etc.
Ouais, le jeu, ça peut être les
le jeux.
Jeu,
j'ai perdu le jeu.
Une
oui.
diversité de jeux.
Voilà,
oui, ça fait, oui.
C'est là où il faut... C'est vraiment à une échelle globale du média et pas sur un jeu donné ou un projet donné que c'est pertinent.
Voilà. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire.
Oui,
donc ça veut dire que j'ai... Ok. Okay. Non, mais c'est important de comprendre qu'il faut exercer cette logique en fonction des échelles.
Parce que
cette logique, elle peut avoir des effets pervers aussi.
J'adore les jeux super hardcore, très poussés dans un truc qui vont aller hyper loin et que moi, je vais admirer pour la détail qui ont été évolués au fil du temps. Mais si jamais il n'y a que des jeux comme ça, moi, j'en ai marre au bout d'un moment.
Et notons qu'à mon avis, un jeu comme ça peut aussi être rendu plus accessible.
Complètement, on
peut concilier profondeur et accessibilité.
J'en suis
convaincu.
Je vais même défendre une thèse très osée. Mais alors attention, je pense que un jeu spécialisé avec des spécialistes et des passionnés a aussi tendance à énormément intriguer à l'extérieur et à engendrer de la volonté de faire partie de ces gens. J'en veux pour preuve, Sensexologie. Si tu prends l'histoire de Sens, c'est des spécialistes qui parlent dans les micros de la cellule. Tout le monde écoute les spécialistes en train de raconter. Enfin, tout le monde. Quelques personnes écoutent. Enfin, on sait maintenant des milliers de personnes, en fait, écoutent ces gens en train de parler de Sens. Et ça leur donne envie. Ils se disent, mais ces mecs, ils ont l'air de s'éclater avec ce truc. Et ça crée de la hype. Et ça, Maxime, il nous l'a bien dit. Quand il est venu présenter justement les problèmes de sécurité émotionnelle de Sens, il a dit, la cellule crée... Par sa spécialisation, ses fans qui viennent parler de Sens.
Il y a une forme de rétention-fascination.
Exactement. Créer de la hype qui donne envie à des gens qui n'étaient qu'extérieurs au départ de s'investir dans cette communauté et d'en faire partie. Donc ça veut dire qu'on peut trouver de l'accessibilité aussi dans une certaine forme de spécialisation et de spécialité. Ça crée de l'envie, du désir, ça crée quelque chose. Il y a quelque chose qui peut se créer.
Pour Sens, il y a des podcasts très explicatifs qui permettent, quand on arrive dans ça et qu'on n'a pas du tout les pratiques de jeu qui étaient les tiennes lors de la création de ce jeu, de comprendre un peu comment est-ce qu'on est censé aborder le jeu.
Jérôme,
puis oui Antoine. Et non. Oui, mais...
Tout n'est pas détaillé.
Non, mais c'est surtout, est-ce que écouter 40 podcasts, c'est être accessible? En plus de se farder les 5 bouquins, tu vois, c'est effectivement oui, mais
c'est
en même temps
c'est
non,
un patch d'accessibilité.
D'accord.
Mais...
Donc en fait, ce qui rendrait le jeu accessible, ce que tu veux dire, Jay, c'est que ce qui rendrait le jeu accessible, c'est pas les 250 podcasts sur Sens, mais c'est les 300 podcasts autour de Sens qui sont plus accessibles et qui ont du coup donné envie à des gens d'écouter ces podcasts très spéciaux que sont ceux sur Sens, et etc., etc.
Je suis pas sûr que ce soit ce que je dis, mais si tu veux, ok.
Parce que oui, ok. Ouais, j'ai mal compris du coup ce que tu as dit.
Non, par contre, ce qu'il expliquait, c'est que pour que ce soit véritablement accessible, il aurait fallu que les 300 podcasts ils soient condensés dans 5 pages au début du bouquin.
D'accord, ouais, okay. D'accord.
Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'en fait, t'as dit ça, Antoine, ça crée de la hype pour les gens qui sont.
D'accord avec moi.
Pas tout à fait d'accord. Un peu, mais pas tout à fait.
Non, mais il faut dire les noms. On est
avec la radio. Oui, pardon, quand t'as parlé avant. Chers auditeurs, chères auditrices. Quand tu dis ça crée de la hype pour les gens qui sont extérieurs.
Moi, Dark Souls, ça me fait cet effet-là.
Quelle est la population qui peut avoir des chances de s'intéresser à la cellule et d'être amené à écouter des podcasts sur Sens? Des gens qui sont extérieurs à quoi? Extérieurs à Sens, mais qui ont déjà franchi un certain pas d'accessibilité du jeu de rôle.
Non mais attends.
Là, tu parles, le phénomène de hype dont tu parles, c'est plus un phénomène qui va spécialiser des gens qui sont déjà dans un média que... rendre accessible le média.
Antoine, il y a quand même des gens qui ont commencé le JDR par Sens. Hein.
C'est les exceptions, je pense.
Ce sont des exceptions, mais par exemple, le podcast de la cellule étant un podcast hebdomadaire, présentiel, régulier et de très long terme, maintenant il y a des gens qui s'intéressent juste au podcast qui nous écoutent. J'en veux pour preuve la population des gens du voyage. Des gens du voyage qui nous écoutent à la cellule parce que c'est cool. Ils ont un podcast qui dure depuis des années, qui peuvent écouter, qui n'est pas répétitif. Et je te jure, du coup, ces gens-là qui faisaient plus de jeux de rôle ou qui, ils s'y remettent, etc. Je ne compte plus les mails de gens qui me disent « J'avais arrêté le jeu de rôle, j'en avais entendu parler, la cellule m'a donné envie d'en faire. » Donc ça veut dire aussi que parce qu'il y a des fans de podcasts, ils vont se mettre au jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une phrase de Darky que j'aime beaucoup qui dit en substance, quand on est passionné par un truc, on est obligé d'être passionné par l'intégralité des trucs du monde. Parce qu'en fait, la passion, c'est peut-être... C'est pas toi. J'ai tendance à confondre Darky et Antoine, je crois. C'est-à-dire que quand on est à fond dans un truc, parce qu'on est à fond dans un truc, on a tendance à s'ouvrir de façon passionnée sur plein d'autres trucs parce que le truc en question, il parle d'un autre truc et puis que comme on est à fond dans le truc, on a envie de savoir... vous voyez ce que je veux dire ?
Je suis assez d'accord.
Ça a été un des propos d'un podcast précédent. Ça.
On peut geeker la météo, on peut geeker plein de trucs comme ça et à partir du moment où on le geek, ouais, on s'intéresse à tout ce qui peut avoir un embranchement ou, commun. Même ténu avec ce truc et oui, on...
Mais bon, c'est la passion. Là,
ces heures passées à feuilleter des wikis.
Ouais, mais là c'est la passion qui fait dont je fais la promotion et puis
ouais, voilà.
De l'accessibilité.
En fait, je nie pas du tout le pouvoir et le potentiel de la passion et son intérêt. Encore une fois, non. Just hire your fans, mais ayez plein de fans, soyez content d'avoir des fans et poussez les choses quand même. Mais là, je parle vraiment du sujet de l'accessibilité. C'est jamais qu'un apprivoisement en plusieurs étapes d'œuvres qui sont regroupées dans un média. Et à un moment donné, il y a des portes d'entrée à différents niveaux. Et il y a beaucoup de gens qui restent en dehors d'œuvres qui pourraient leur plaire, les intéresser et leur parler parce que le cap est trop grand et la marche trop haute, quoi. Mmh. Ou à un moment donné, la marche trop haute, ou alors il faut découper la marche sur plus de temps ou amener des choses comme ça. Donc là, je ne parle pas de tous les aspects de la spécialisation qui vont approfondir les choses. Je parle vraiment plus, mais en tout cas, de ce qui va amener le plus de gens et plus de public à s'intéresser au jeu de rôle pour aussi diversifier le jeu de rôle, pour aussi démultiplier le nombre de spécialisations qui ont lieu dans des types de jeux différents et dans des pratiques différentes. Et quand on parle d'accessibilité, pour moi, c'est de l'ordre du design élégant. On parlait d'Happy Together, qui est rédigé d'une façon... très très clair sur ce que le jeu demande, ouais. Etc. Ça, c'est de l'ordre de l'accessibilité, pas juste de toucher un public. Toucher un public, en fait, ça passe plus par le marketing que par l'accessibilité. Enfin, si les deux. Bref, c'est notre sujet. Mais en tout cas, un design élégant dans ce qu'il a de c'est vrai, accessible, il faudrait d'autres termes.
Il y a
ça,
un
pour
truc qui
me
pose problème dans ce
faudrait détailler des termes en plus qu'accessible. Enfin bon, est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais je vois
intuitif.
Bien.
Intuitif.
C'est ça, c'est l'intuitivité.
C'est la affordance vraiment.
C'est ça, j'ai essayé de... des jeux ouais. qui se laissent jouer, quoi. Enfin...
Voilà, c'est exactement ça, qui se laisse jouer. Où tu...
Et après,
quand
après,
on prend le livre, on peut y jouer, pour reprendre une expression de Fly qui en parlait aujourd'hui.
Après, il y a aussi un problème autre, qui est que si on était tous aveugles, les images seraient moins accessibles que l'audio. Et je me demande jusqu'où la façon dont la société nous apprend à consommer du média nous pose aussi aujourd'hui à avoir une définition de l'accessibilité qui est celle qu'on a. Et que peut-être demain, quand on n'aura plus de pétrole ou que sais-je, que le monde aura radicalement changé, ce qui sera accessible et ce qui ne sera pas aura radicalement changé. Les uns seront plus accessibles tandis que les autres le seront. Valentin.
Ouais, accessible, c'est vraiment pas le bon terme de plus en plus, je me dis.
Non, mais c'est juste que le sens du mot est contextuel, est contextualisé, quoi. Mm. C'est-à-dire que c'est pas accessible dans l'absolu. C'est là, maintenant, tout de suite, je veux créer un jeu en 2018 en France. Je veux qu'il soit accessible.
Oui.
C'est pour ce contexte-là. Pour
2018. Voilà, mais justement, quand tu fais ça, et c'est là que j'en reviens au truc de Jérôme qui me fait des nœuds dans la tête. Quand tu fais ça et que tu commences à réfléchir dans ton travail à rendre accessible quelque chose, parce qu'aujourd'hui, en 2018, ce qui est accessible, c'est Facebook, c'est les jeux courts, c'est ceci, cela, jusqu'où est-ce que tu n'es pas en train de corrompre ton travail pour en faire un produit ? Et moi, du coup, je me dis, ce conseil-là, il s'applique très bien à des produits, mais il ne s'applique pas à des œuvres. Vas-y, Valentin, je t'en prie.
Non, mais c'est qu'une question d'objectif, tu vois. Si tu n'as pas envie de rendre ton jeu accessible parce que ça va compromettre tout un tas de choses, où c'est difficile de le rendre à la fois accessible et de respecter tout le propos que tu y mets derrière.
Ouais.
Alors ça, c'est un choix de game designer. Je pense que ouais. Don't hire just your fan, mm-hmm.
ça veut dire
voilà, que tu fais en fait un choix sur ce que tu intègres comme propos, comme valeur, que tu veux intégrer en particulier, quoi.
Est-ce que ce documentaire, enfin cette vidéo YouTube, contextualise son propos en disant « pour faire tel ou tel jeu, n'engagez pas vos fans ». Et si oui, de quel jeu il parle ? N'engagez pas que vos fans.
Alors, ça contextualise à l'industrie du jeu vidéo de façon générale. Et connaissant Extra Credit, il n'y a pas de contexte plus précis que ça. Et ça s'applique à la production de jeux vidéo à toutes les échelles, de l'indépendance jusqu'à plus haut.
Et ben dans ce cas-là, je pense que c'est bullshit.
Il y a deux accessibilités.
Non, je pense que c'est, c'est militant, en fait. C'est militant.
Oui, déjà un petit peu. Encore plus, vu comme les paroles que je fais moi. Et en fait, je viens de comprendre un truc là. Il y a deux accessibilités qui sont très différentes. L'accessibilité de mon bouquin de jeu de rôle, est-ce qu'il va pouvoir être distribué dans les dom-toms ? Est-ce qu'il va coûter pas trop cher pour être accessible à telle population ? Est-ce que telle population va en entendre parler via Facebook ou autre ? C'est pas du tout la même accessibilité que ça y est, ils ont le jeu. Maintenant, quelle expérience ? En fait, je ne parle que de player experience. Je ne parle que de quand ils ont le jeu, comment ils le vivent, le fait d'apprendre à jouer au jeu.
Ah, putain, on va
pour
y
moi,
arriver.
C'est lié à la notion d'intended play aussi. Ah. Ils en ont parlé dans Extra Credit il n'y a pas longtemps aussi.
François, faut que tu nous développes.
L'intended play, donc ouais. le jeu.
L'intention
de jeu, c'est difficile à traduire, mais c'est le jeu tel qu'il est dans son intention pour l'auteur.
Alors, dans ce cas-là, on ne parle pas d'accessibilité, on parle de transmission. Alors, c'est quoi le propos du truc ?
Oui, voilà.
C'est de dire qu'il faut que le jeu soit transmissible.
Tout de suite, ça devient contradictoire avec le fait de faire une œuvre.
Ah, bah voilà, là, par contre, la transmission.
Le terme accessibilité qui n'était pas le bon.
Alors.
Et c'est beaucoup plus clair. Alors, quand on parle,
reprenons
quand
ce podcast.
C'est le fait que quand quelqu'un prend ton jeu, il va arriver à y jouer comme tu veux qu'il puisse y jouer.
Ça, c'est la transmission pour moi, c'est pas l'accessibilité.
Oui, mais c'est aussi ça qui passe et par Valentin, le terme accessibilité tel qu'il est utilisé depuis.
Il n'y a pas quand même un lien entre transmission et accessibilité. Et moi, je me suis en train de me poser la même question.
Ouais, le langage reste flou là-dessus.
Je me demande, par exemple, c'est quoi la transmission d'un jeu vidéo ? Tu vois ?
Oui.
Je me dis, est-ce qu'on parle de transmission d'un jeu vidéo ?
Ouais.
C'est un terme du milieu du jeu de rôle.
Oui.
Ouais. Qui est lié à l'idée de l'initiation,
c'est
etc. En fait, il faudrait pas qu'il y ait de transmission dans le jeu de rôle. Parce que la transmission sous-entend un joueur qui va apprendre à jouer à un autre joueur.
Ça sous-entend qu'il y a besoin d'un maître.
Dans la gueule aujourd'hui, il se prend maintenant ce podcast complètement barge.
Mais oui, la transmission sous-entend qu'il y a besoin d'un maître, ce qui sous-tend que le livre, l'objet du jeu de rôle en lui-même, ne suffit pas
à se transmettre lui-même en quelque sorte.
C'est incroyable ce que vous êtes en train
dans le jeu société, on parle pas même sans parler de jeux vidéo.
Incroyable.
Dans le jeu société, on parle pas de transmission.
Transmission suppose qu'il y a un maître. Une transmission suppose qu'il y a un auteur qui doit transmettre son expérience de jeu.
Voilà, alors que le jeu qui est accessible, c'est l'objet lui-même.
Les règles.
Est accessible.
Là, je
dans
fais des liens
propos.
Avec le jeu en performance et tout. Il y a tout qui est en train de se mettre en place dans ma tête. C'est-à-dire que forcément, quand on a une conception forgienne du jeu de rôle, l'idée de transmission est importante parce qu'on a dans l'idée que ce qu'il faut que la base transmette, c'est la partie prototypique de l'auteur. Tu m'arrêtes, Valentin, si je fais des conneries.
C'est la partie prototypique de l'auteur. Alors que l'accessibilité, c'est ce que j'appelle l'intended play aussi.
D'accord. Ok. Ok. Très bien. J'ai bien compris. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de comprendre le truc de transmission. Donc ça va. Et du coup, on pourrait, par extension, essayer de se poser la question, est-ce que finalement le jeu en performance parlerait du coup plus d'accessibilité, en mode, ben voilà, tout ce qui compte, c'est que le jeu se trouve sur la table, comme
le jeu
les
en performance parle pas de jeu en tant qu'objet jeu.
D'accord,
quoi.
Excuse-moi.
Enfin, très peu, quoi. Okay. Enfin, de pratique, en fait.
C'est
plus
que
de pratique que d'objet jeu.
Ok. Mais tu vois, là, du coup, ce qui compterait, c'est l'accessibilité. Alors, l'accessibilité... Donc en fait, ce que tu voudrais,
ouais, on a
Antoine,
les termes qu'on emploie,
pour clarifier le débat, c'est un truc qui est intéressant. En fait, on utilise le mot jeu en général. Ouais. C'est polysémique, mais très intéressant. Pour clarifier le débat, ça peut être intéressant de découper le mot jeu en livre, croyance au sujet de ce qu'est l'expérience de jeu.
Ouais.
Et l'expérience de jeu.
Ouais. Okay. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm-hmm.
Okay. Donc du coup, c'est trois éléments, juste pour c'est une possibilité.
On s'accroche.
Pour... Donc du coup. Nous on produit c'est des livres, mais c'est l'objet, le vecteur, on pourrait dire. Bien, si on peut transmettre des en fait on peut produire une expérience de jeu avec autre chose que des livres.
Oui,
voilà. Tout on peut
fait.
Construire
Thomas
des croyances.
Thomas Mignan a fait des podcasts
voilà,
pour présenter des jeux.
Exactement, ouais, on peut construire des croyances. Par exemple, il y a aussi des transmissions orales. Mm-hmm. Donc il y a un vecteur qui n'est pas un livre.
Ouais.
Pour donc du coup il y a le vecteur, la croyance au sujet du jeu et la croyance au sujet de la pratique.
Ouais.
Et la pratique elle-même telle qu'elle est jouée.
Ouais.
D'ailleurs, il y a beaucoup de cas en fait, où la croyance au sujet de la pratique est très différente de la pratique telle qu'elle est jouée. Et donc, si je te pose la question...
Antoine,
reformulé sous ces trois éléments, comment est-ce que tu vois l'enjeu de l'accessibilité en termes de vecteurs, en termes de pratique et de croyance
question,
au sujet
ça.
Des pratiques, tu vois.
Alors, le but est double. Le but est que pour les concepteurs du livre, celui-ci permette, quelles que soient les populations qui l'utilisent, que la partie espérée, je vais plus appeler la partie souhaitée, tu vois, que la croyance au sujet de la partie, du point de vue du concepteur, c'est la partie souhaitée, quoi. Que la partie souhaitée et la partie réelle soient le plus proche possible. Mais pas que ça, c'est aussi et surtout que la partie puisse avoir lieu, en fait.
Et donc, tu penses que pour réaliser cet idéal-là, parce que moi, je parle d'idéal à ce niveau-là, hein, pour réaliser cet idéal-là, c'est-à-dire, en gros, ce que tu veux, c'est que le... Je vais traduire ça en français, ça ne sert à rien. Ce que tu veux, c'est que pour atteindre cet idéal-là, tu penses que le meilleur moyen de l'atteindre, c'est de faire playtest à des populations diversifiées.
Oui, mais encore une fois, ce n'est pas limité au playtest. C'est une question de philosophie
aussi,
de design.
Ouais.
Tu penses en fait qu'il existe un concept d'affordance pour le jeu de rôle et que en faisant playtester des gens qui ne sont pas tes fans ou qui ne sont pas experts, parce que moi j'ai plus envie de parler de fans, j'ai envie de parler d'experts.
Oui, oui.
En faisant tester des non-experts, tu vas améliorer en fait l'affordance de ton jeu de rôle.
Oui, c'est un cas, mais c'est en fait le limiter au playtest, c'est un vrai problème. L'idée, c'est plus. Même dans la conception avant, dans la façon dont tu vas vouloir
donc
orienter ton jeu.
Tu réfléchis en fait à ton jeu.
Tu vas réfléchir à ton jeu.
Tu réfléchis à ton jeu, toi, Romaric, et puis tu en discutes avec des gens.
Voilà.
T'en discutes avec Fabien, t'en discutes avec moi, t'en discutes avec une personne qui connaît pas très bien le jeu de rôle. Mm-hmm. T'en discutes, et puis tu discutes, puis qui connaît un peu les jeux de société, qui a entendu parler de jeux de rôle.
Ou qui connaît méga bien Prosopopée, mais qui connaît rien à.
C'est ça l'idée.
Tu fais toi là.
Mais je comprends parfaitement l'idée. Et au risque de passer pour un... Parce que j'ai l'impression que ça, c'est une position qui est très ouverte. Ça donne l'impression qu'il faut faire jouer à tout le monde, etc. Mmh. Moi, je sais que Flavie, par exemple, et moi-même, nos jeux, nos premiers playtests, on ne veut les faire qu'avec des amis proches. Qu'avec des amis proches. On ne veut pas... Et Flavie même va plus loin.
Mais des amis, c'est pas forcément des experts.
Attends. Ah!
c'est pas le même problème. Le problème de l'affection de la personne qui pourrait changer son jugement, c'est pas les mêmes biais ouais, que les biais d'expertise.
Bah, comme par hasard, dis donc, les amis avec qui Flavien veut jouer, c'est oui, des amis avec qui elle joue depuis des années, dis donc.
Là, oui, mais dans le compte, de façon générale, le...
enfin, tu vois. Oui, d'accord, je vois très bien la nuance. Mais très
prenons,
bien, très,
prenons
très
par
bien.
Exemple François. Le dernier playtest de Vademecum auquel j'ai participé. Alors, certes, j'ai joué à Sens, etc., mais on n'a jamais joué à Sens ensemble.
Vous êtes des fans de Sens.
Et
j'ai fait jouer, j'ai mis sur le playtest avec plus ou moins de bonheur. Peut-être justement que les échecs de Vademecum viennent de ce choix, justement. Peut-être. Mm. Peut-être que ce conseil, j'aurais dû me l'appliquer à moi-même pour Vademecum.
Échecs, du coup, en termes de, d'accessibilité.
D'accessibilité, oui. Tout à fait.
Oui, mais ça fait partie du propos de Vademecum d'avoir des problématiques qui résonnent avec celles de Sens aussi. Je pense. Donc c'est normal.
C'est un problème qui est abordé dans d'autres podcasts.
Alors, à savoir aussi que en plus dit ça, alors que c'est pas vrai, c'est-à-dire que j'ai fait jouer aussi des gens qui sont pas fans de Sens. Oui. En l'occurrence, j'avais deux tables de playtest, donc la vôtre, les quatre fantastiques, donc Garrick, Vincent, Jérôme et toi-même François, et une deuxième table de jeu qui était composée de joueurs de jeux vidéo, donc Aline FP. Oh putain, je vais pas y arriver parce que je suis dyslexique. FQPEH et Sébastien TMDJC et François et Frédéric pardon Denève Leroy qui vient de temps en temps ici, qui lui pour le coup est MJ de Sens aussi, mais bon, voilà. C'est, effectivement, il y avait un MJ de Sens parmi ma table de deuxième playtester. Mais il y a aussi des gens à qui j'ai fait playtester ce jeu qui ne sont même pas des joueurs de jeux de rôle. Pour Vademecum. Hein, j'ai fait jouer à des amis qui ne connaissent que le jeu de plateau parce que justement ce que je voulais c'était que le jeu soit accessible par un genre de jeu de plateau. L'idée aussi c'était de transmettre le jeu de rôle à des gens qui... Donc tu vois...
Tu as commencé à appliquer ce conseil à toi-même.
Mais parfaitement. Maintenant, il y a un truc qui me pose problème, c'est son universalisation à ce conseil. Dans le fond, il n'y a que ça que je questionne depuis tout à l'heure. Mm-hmm. Le conseil en lui-même... Je sais qu'il est applicable dans certains domaines et pour certains jeux donnés. Parce que là où je me pose la question, c'est est-ce qu'il est universel ? Est-ce que vraiment on peut, dans le média, donner ce conseil à tous les rôlistes aujourd'hui, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas des jeux spécifiques, nombreux, qui n'ont pas besoin de ce conseil ?
Je pense qu'il les OSR, quand même, par exemple. C'est bien de s'adresser à ses fans, il n'y a pas de problème. De faire des jeux pour ses fans qui sont des jeux de spécialistes, en soi, ce n'est pas un problème. Après, spécialement dans un milieu comme le JDR, où on a quand même une production limitée, c'est quand même bien de garder une porte ouverte.
Pardon,
excuse-moi, mais ça, c'est finalement, tu partages l'éthique d'Antoine en disant ça.
Complètement.
Voilà, tu dis, moi, je trouve ça bien que, en fait, un jeu de rôle, quel qu'il soit, garde effectivement une part d'accessibilité parce que c'est une bonne chose.
Mmh. Après,
il y en a qui vont te dire.
Il y a aussi le fait que si quelqu'un qui prend le jeu puisse apprendre à y jouer, quoi.
Après, moi, je vois aussi la question des contraintes, quoi. C'est-à-dire que si ton jeu, tu veux que ce soit un jeu de spécialiste hardcore parce qu'on kiffe un truc de fou, moi, je peux en faire des trucs comme ça, quoi. Il y a des Pico Games, je peux y jouer avec trois personnes parce que c'est les trois personnes qui comprennent ce que je raconte en termes d'herméneutique, quoi. Ouais. Et donc, ces trois personnes-là, moi, je me dis, j'ai le choix de laisser une porte ouverte. Si je commence à essayer de game designer le jeu pour ne serait-ce que laisser une porte ouverte, mais c'est pas du tout la même, quoi.
Ouais.
Et en fait, après, c'est mon objectif et mon éthique. Est-ce que je veux, quand bien même je mettrai en disposition le jeu sur Internet, est-ce que je veux produire une porte ouverte au prix de peut-être
non, pas forcément,
tripler le temps de développement, quoi. Donc ça dépend.
C'est clair que c'est plutôt un conseil qui s'applique à des jeux qu'on veut ouvrir à un grand public.
En fait, plus exactement, comme l'a très bien dit Antoine tout à l'heure, c'est pas un conseil. C'est un souhait. Mmh. Il aimerait que le jeu de rôle... En fait, en fond, Antoine, tout ce que tu es en train de...
Qu'une proportion plus grande suive ça, voilà. Mais pas...
T'es en train de nous refaire le podcast des chemins qu'il nous reste à explorer, là.
Oui, aussi un peu.
Le podcast dont t'es jamais sorti, j'ai l'impression.
Ouais, sauf que la grosse différence, c'est qu'il nous donne une méthode, quoi. Il nous dit, sachant ce qui est intéressant, Antoine, moi, je trouve ça intéressant aussi.
Je pense pas que c'est une méthode, je pense que c'est...
Un indice
pour régler un problème précis.
Ouais, tout à fait. Ouais, j'entends.
Un élément.
Il y a autre chose qui me vient sur lequel j'aimerais partir, toujours dans le lien avec le jeu vidéo. Je vais donner cet exemple. Au-delà d'être spécialiste d'une œuvre ou d'une série donnée, dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de problèmes de genre entier de jeu. De catégories entières de jeux qui ne sont pas accessibles. Pas juste les jeux d'une série parce qu'il faut être l'expert de machin truc. N'importe quel jeu qui nécessite de gérer à la fois avec le clavier à une main les déplacements d'un personnage et de l'autre avec la souris une vision en 3D haut en bas machin, il y a plein de gens qui ne peuvent juste pas jouer à ça. N'importe quel jeu qui nécessite de manipuler une manette avec un certain nombre de boutons, une certaine complexité, c'est déjà un obstacle à un apprentissage en soi. Il y a des éléments qui rendent compliqué la transmission, l'accessibilité, il faut encore qu'on ait un terme pour ça, mais voilà, du jeu vidéo à plein de niveaux. Et dans lesquels il y a des communautés énormes de joueurs sur des jeux importants où le gameplay fondamental est quelque chose qui doit être acquis avant même de pouvoir, jouer.
De pouvoir avoir une expérience.
Et
comme une grammaire qu'il faudra apprendre avant de pouvoir parler le langage, comme et le solfège qu'il faudra apprendre avant de jouer de la musique.
Et ça, c'est quelque chose que dans le jeu vidéo, je déplore, mais en même temps que je comprends, parce que tous les jeux vidéo peuvent pas à chaque fois avoir un tutoriel pour apprendre à... ça fait partie d'une histoire de joueur, ça fait partie d'une culture de joueur que d'apprendre au fur et à mesure. Donc, on peut jamais complètement enlever ce problème-là, je suis d'accord. Mais là, je parle plus de compétences transversales pour tout le jeu vidéo.
Bon, après, j'aimerais bien...
Dans le jeu de rôle, est-ce qu'il y a des éléments comme ça aussi ? Vis-à-vis de l'initiation, vis-à-vis de qu'est-ce que c'est que le roleplay ?
Très certainement. Valentin soulignait dans le podcast sur l'herméneutique. Ouais. Bah, je t'en prie.
Je suis persuadé qu'il y a j'ai cette image de l'iceberg qui, je pense, inconsciemment me vient du système zéro de Jérôme.
Jérôme Larrey. Tout à fait.
L'idée, c'est les croyances au sujet du jeu, c'est une partie émergée de l'iceberg. Et puis la véritable pratique, c'est tout l'iceberg à 80% qui sont des procédures acquises.
Tacites.
Et c'est aussi pour ça qu'on parle de transmission en termes de jeux vidéo, c'est parce qu'en fait, l'accessibilité. L'accessibilité, elle se construit effectivement à travers la transmission parce que en jouant avec d'autres, on acquiert tout un tas de méthodes, en fait, de protocoles, de procédures, implicitement, sans avoir à en parler, qui rendent possible l'expérience du jeu de rôle.
On intègre le solfège sans même se rendre compte qu'on est en train de travailler à l'intégrer.
Voilà. Donc il y a une partie qui se déroule comme ça. Il y a aussi des joueurs qui ont une histoire de l'ordre, une histoire de vie, j'entends, de l'ordre de j'ai acheté Donjons et Dragons, j'y connaissais rien en jeu de rôle, la couverture était sympa et j'ai joué avec mes potes.
Ouais.
Donc alors là, voilà, ils ont produit de manière endogène un ensemble de procédures, de protocoles, de méthodes. Et alors c'est peut-être pour ces joueurs-là on peut se poser la question, savoir à quel point c'était difficile, à quel point les parties étaient intéressantes ou pas au début, etc.
C'est là-dessus qu'il nous faudrait des textes à étudier. Ce serait vachement intéressant de connaître les premières parties de jeux de rôle qui ont été jouées sur la base des bouquins, tout premiers bouquins.
Ouais, mais attends, le truc aussi, c'est que.
Découvrir des trucs de ouf.
Le problème, c'est que la pratique a complètement évolué en jeu de rôle, parce que les premières parties, à mon avis, ne ressemblent pas du tout à des parties des années 90, c'est des parties de 2000. Avec cette transmission, si tu veux. Avec cette intégration petit à petit des règles implicites, plus en parallèle tout un tas de joueurs qui se sont formés eux-mêmes en prenant les livres et qui ont développé aussi d'autres procédures.
Je parle de mes premières parties il y a de ça 7 ans quand j'ai pris Nullbug pour la première fois et que j'ai lu le bouquin et que je me suis mis à jouer avec des potes. Ouais. On peut, hein. Ouais. C'était mais très nul. Hein.
C'était...
Ouais, mes parties de Donjons & Dragons 4ème édition où j'ai galéré en tant qu'MJ à faire des choses.
Je vais vous raconter une petite anecdote à mon sujet. Quand j'étais gamin, en 5e, j'ai découvert Magic l'Assemblée. Seulement, comme vous le savez, le livret de règles de Magic l'Assemblée, c'est un espèce de mini A7, A8, je ne sais même pas, avec des écrits en tout petit. Évidemment, aucun de mes potes ne l'avait lu en entier. On avait tous lu plus ou moins les règles, mais on ne l'avait pas lu en entier. Et en fait, résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? On a créé des parties, chacun arrivait avec ses règles de Magic, c'est quelques règles qu'il avait apprises, et donc on a commencé à faire des parties. Alors il y a deux mecs qui sont partis dans un coin, ils ont commencé à faire un premier duel avec des règles. Il y en a deux autres qui sont partis dans un coin, ils ont fait un duel. Il y en a deux autres qui sont... On était à peu près, on va dire, deux ou trois groupes, comme ça. Et quand on s'est retrouvés, on a mis en commun en fait nos parties, on a dit « Ah bon, mais toi t'attaques pas avant le 7e tour ? Ah oui, mais toi tu dégages tes terrains ?» Mais nous on ne dégageait pas nos terrains, et on s'est comme ça, progressivement... À force de discuter entre nous, on a appris à jouer correctement à Magic. Et il a fallu attendre 1996, pardon, la sortie d'un petit pack avec deux jeux pré-triés de Zach et de je ne sais plus les noms des deux joueurs, qui était en fait, il y avait un livret qui disait Donc tu avais les deux jeux pré-triés, il fallait surtout pas les mélanger. Tu donnais le premier jeu à un joueur, le deuxième à un deuxième joueur. Et en fait, chaque joueur avait son livret. Et là, ça te disait, vous venez de piocher telle carte, c'est une créature, elle a ceci, cela, et t'expliquait. Et il a fallu attendre.
C'est marrant, on dirait vraiment un tutoriel de jeu vidéo, mais pour un jeu de cartes.
Ouais, et c'était extraordinaire. Ce pack, génial, il est collector, hein. Il est extraordinaire parce que c'est la façon la plus claire dont je pense que c'est ce pack-là qui a mis tout le monde d'accord et qui a fait que Magic est finalement, en tout cas je te parle dans mon collège, hein, je te parle pas dans le monde, hein, parce que les Américains jouaient déjà très bien à Magic à cette époque-là, c'est vraiment dans mon collège en tout cas, c'est ce pack-là qui a mis tout le monde d'accord sur la vraie manière de jouer à Magic.
Et qui au final a permis que tous les experts aient une base commune solide.
Exactement.
Donc ça avantage aussi les experts.
Exactement. Donc on peut imaginer que ça a été la même chose pour le jeu de rôle, tu vois. Enfin, qu'il y a eu en tout cas au départ, peut-être autour de Donjons et Dragons, des choses un petit peu pareilles. Enfin voilà, c'est pour donner un exemple un peu concret d'avoir vécu ce truc-là. Dernier truc, je voudrais clarifier ma position par rapport à toi, Antoine. Quand quelqu'un vient à la cellule avec une idée, la tradition, c'est d'essayer de le mettre en défaut, tu vois,
oh
de
oui,
challenger.
Oui, t'inquiète pas, j'ai bien saisi ça.
Moi, je suis complètement d'accord avec cette idée. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien identifié sur Vademecum, c'est exactement ce que j'ai fait pour Vademecum. Je l'ai fait aussi pour Sens, où j'ai fait jouer des gens qui ne connaissaient pas le jeu de rôle, aussi parce que j'étais dans une démarche de faire jouer tout le monde. Ah, tu connais pas le jeu de rôle, ok, viens là, toi, tu qui connais pas le jeu de rôle, fais le jeu de rôle avec nous. Moi, quand j'étais à la fac, j'étais connu pour être le gars avec qui, si tu parlais avec lui au bout de 5 minutes, t'étais bon, t'étais engagé pour faire une partie de jeu de rôle le soir, quoi. Enfin, c'était presque ça. Donc, évidemment, je suis d'accord avec toi sur le fond, enfin avec cette idée, mais il fallait bien que je trouve un angle d'attaque, et moi c'est sur le caractère universel de ce conseil que j'ai décidé d'attaquer. Maintenant peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder le truc, l'œuvre et le produit aussi, je pense qu'il y avait une ligne d'attaque. Est-ce que ça suscite en vous d'autres types de réflexions? Je pense qu'on a bien dégrossi le sujet, je pense que quand on va se réécouter on va vraiment passer pour des cons, parce que ça c'est typiquement le genre de sujet où on commence, on n'a pas d'idée, puis au fur et à mesure les idées viennent, c'est aussi ça, c'est un think tank, hein. C'est aussi ça, donc d'autres idées les gars? Je vous vois tous avec le micro posé, je pense que c'est bon, on a fait le tour.
Non là, rien tout de suite, j'avais quelques idées pour expliquer un peu ce qu'on pouvait entendre j'ai perdu le mot là.
Accessibilité, transmission.
Dans le jeu vidéo en tout cas. Ouais. Je ne sais pas si c'est intéressant à ce stade.
En fait, moi je pense que c'est très intéressant toujours de faire des ponts entre les médias, mais ça reste des analogies.
Oui.
Et il faut s'en méfier. Tu vois, c'est comme quand on parlait de solfège, de musique tout à l'heure. Il faut se méfier quand même des analogies. Il faut garder du recul par rapport à tout ça. Ouais. Quand j'entends un conseil qui vient du jeu vidéo. Et quelqu'un qui vient, ah ouais, il faut faire la même chose dans le jeu de rôle. C'est pareil pour les gens des théories du cinéma qui arrivent, font, mais en théorie du cinéma, on fait ça, alors on va faire ça en jeu de rôle. J'ai toujours une méchante tendance à me méfier. Comme je dis souvent, le jeu de rôle doit prendre soin de lui-même.
La différence, c'est que, comme on le disait au début, c'est pas un conseil ou une théorie qui parle de l'objet de jeu vidéo qui s'applique à l'objet jeu de rôle. C'est un conseil qui vient d'une industrie à une autre industrie. Tu
peut-être
vois.
Que les deux industries évidemment, mais du coup, comparable, tu vois.
C'est que c'est quand même pas.
En fait, l'analogie devrait n'avoir qu'un rôle créateur, en fait.
Oui.
C'est-à-dire, ça nous donne d'autres idées à évaluer pour. Donc, ce qu'on vient de faire, je pense, pendant le podcast, quoi. Ouais, évaluer la pertinence de l'analogie, en fait.
Donc, oui, je pense qu'on peut quand même donner le conseil aux gens de tester leur jeu. Si leur but. Alors, c'est ça, c'est, tu vois, là, j'ai du mal à faire une conclusion. Si leur but, c'est effectivement de faire en sorte que leur jeu soit accessible à une large partie de la population, une population non expert de tel ou tel sujet. Hein.
Non initié,
voilà. Bah dans ce cas-là, oui, il faut tester avec. Mais j'ai l'impression de dire une évidence, là, Antoine.
Faut tester avec les non initiés.
Ouais. Non, mais si attendez, là, il y a un truc aussi depuis le début du podcast où on parle de playtest. J'ai bien demandé la différence au début à Antoine. En fait, c'est pas que le playtest. Là, tu parles de playtest tout le temps.
Oui.
C'est pas que le playtest.
Parce que moi, je vois pas de conception en dehors du playtest, Valentin.
Oui. Bah si, il y a le processus de conception, il est très divers.
Non, c'est aussi parce qu'on qui sont les personnes qui créent des jeux.
Il y a un auteur qui ensuite playtest.
Voilà, c'est ça. Moi, je.
Ah, non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, moi, ce que je fais en fait en règle générale quand je fais des jeux, c'est que je fais des playtests. Et quand j'ai une partie qui fonctionne, j'écris le système qu'on a utilisé le soir même du playtest qui a fonctionné dans un jeu. Mais c'est juste une phase de rédaction. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, moi, je ne fais que.
Oui, mais quand tu playtest, t'as quand même une idée en tête, t'as des choses que t'expérimentes, et t'as déjà un objectif de jeu. T'as déjà des choses que tu cherches à obtenir.
Et oui, mais elles sont très faibles souvent. Souvent, elles sont très faibles. Je m'inscris complètement dans la démarche des Pico Games dont on parlait avec Valentin les mois derniers. C'est-à-dire que Moi, quand j'arrive sur un playtest, je suis à poil, hein, le roi est nu. Hein. Je fais croire que, et puis j'invente des trucs, il me semble, à un moment donné, j'ai envie d'obtenir un effet, paf, j'invente un truc, et à la fin, je me contente de dire, ok, bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné, cette règle-là, elle a permis, etc., etc. Ensuite, je refais un playtest pour valider que ces règles que j'ai découvertes, tu vois, je me sens pas comme un créateur de jeu, je me sens comme un découvreur de jeu.
Genre, t'as une grosse bûche, et puis tu tailles dedans avec un coup de playtest.
C'est ça, exactement. Et en ce sens, je m'inscris pleinement dans la démarche du vide fertile de Frédéric Sintès. Parce que le vide fertile, c'est quelque chose qui se cueille. Le vide fertile de Frédéric Sintès, c'est quelque chose qui s'obtient par hasard. Et que tu finis par cueillir. Tu dis, ah bah voilà, là j'ai obtenu le vide fertile que je souhaitais avoir, mais c'est un hasard.
Je te crois pas.
Qui ne frappe que les esprits préparés, bien sûr.
Je ne te crois pas.
Tu ne me crois pas ?
Non, je ne te crois pas. Je pense qu'en fait, tu as... pourquoi tu le Maelstrom, par exemple, tu vois ? Pourquoi avoir réfléchi au Maelstrom ? Pourquoi faire de la théorie, par exemple ?
Parce que j'ai constaté que tous les jeux qui me plaisaient étaient des jeux qui mettaient en place ce système Maelstrom. Et donc, c'est devenu quelque part mon système zéro à moi, que j'ai voulu en plus rédiger, que j'ai fait l'effort de rédiger pour éviter d'avoir à le refaire systématiquement dans mes prochains jeux. Et puis, peut-être un jour, je vais découvrir un autre jeu qui me plaît, qui ne marche pas sur la logique du Maelstrom, et dans ce cas-là, je changerai de moteur. C'est pour ça que j'aime bien parler de moteur de jeu. C'est le moteur Maelstrom, c'est une façon de motoriser les jeux, le Maelstrom. Tu vois, quelque part. Et là, je reprends une analogie. Bref, tout ça. Alors, moi, quelle serait ta conclusion, Antoine, à ce podcast ? Parce que moi, j'arrive pas à vraiment émettre une conclusion.
Ouais, ça revient à l'optique de sortir du essayer. C'est le playtest. En fait, dans le contexte du playtest, c'est une évidence. Mais dans le contexte des créateurs de jeux, c'est moins une évidence. Je parle pas d'un conseil. Vous-même, d'un coup, à votre échelle, transformez-vous en non-fan. Tu vois, c'est pas ça. C'est encore une fois, c'est plus dans l'optique du souhait. C'est plus dans l'optique de la population release et de la population de créateurs de jeux.
Alors, parlez de vos projets, de vos conceptions à des non-initiés.
Oui.
Par exemple,
demandez leur avis. Vous dites pas parce que je fais un jeu qui doit plaire à mon association qui est experte de tel truc. Ne négligez pas les idées pertinentes qui peuvent émerger de personnes qui connaissent rien au jeu de rôle, qui connaissent rien à votre jeu, qui n'aiment pas votre jeu, qui vous diront mais moi ce que j'aime pas dans ton truc c'est qu'il y a ça qui me frustre. Bah, cette frustration là. Les experts la perçoivent pas ou elle est pas suffisamment frustrante pour eux pour ruiner l'expérience, mais elle existe quand même. Et peut-être que la régler, ça a amélioré le jeu énormément.
D'accord. Bernadette, tu vois, après sa relecture de Vademecum, elle dit j'ai rien compris.
Oui.
Et je me suis dit je me suis dit, elle doit être un peu de mauvaise foi quand même. Elle a dû comprendre 2-3 trucs. Parce que je connais un peu l'animal. J'aurais peut-être dû faire plus attention à ce qu'elle me disait et dire, ah bon, pourquoi t'as pas compris et compagnie, dans le sens là, du coup.
Il y a un autre élément, c'est que toi, peut-être que tu n'as pas la sensation de réfléchir, de crafter tes jeux uniquement par des formats playtest et crash test. Mais il y a beaucoup de créateurs de jeux qui ne font pas ça, c'est-à-dire qui réfléchissent, c'est-à-dire rationnellement, ah bon alors j'ai envie de faire ça, comment je peux faire, qu'est-ce que je connais comme système qui fait ça.
Ils font une écriture complète de leur jeu avant d'ensuite tester une V1.
Alors après il y a il y a des méthodes, des mélanges entre ces deux extrêmes quoi. Tu peux avoir des gens qui vont assez vite crash tester, puis revenir rédiger pas mal. Par exemple Fabien Ilvain fait beaucoup ça.
Ouais, tout à fait.
Un mélange, si tu veux, entre.
Il est parti se coucher depuis.
Donc, du coup, tu as des gens qui vont explicitement réfléchir à leur jeu et se poser pour y réfléchir. Mmh. Et pour ces gens-là, y réfléchir avec d'autres personnes, peut-être quelque chose d'intéressant, des gens qui ne sont pas experts. Je suis en train de me dire, moi, qui ne suis pas expert de pas mal de jeux assez complexes en termes numériques, j'ai eu l'occasion de discuter avec des créateurs de jeux qui, eux, sont experts de ce genre de système numérique. Numériquement complexe. Et on discute, et moi je leur dis je crois comprendre un peu, tu vois, je suis intégré dans le processus de réflexion, je crois comprendre un peu où ils veulent en venir, je comprends pas les détails parce que je suis pas expert, du coup. Et il me dit voilà, tu vois, t'as tel numéro, tu peux combiner telle et telle caractéristique avec, tu vois, parce que t'as des jetons, etc. Je fais attends. Là, un truc qu'il faut que tu saches, c'est que là, je comprends rien, je suis noyé sous les infos. Et clairement, il y a toute ta fiche de personnage, c'est très compliqué, j'ai beaucoup de mal. Là, il fait ah ouais, effectivement, j'y avais pas pensé, pour moi, c'était évident. Je fais non, là, c'est pour moi, c'est pas évident du tout. Après, c'est comme tu veux, mais c'est clair que pour un non-expert de ce type de jeu-là, moi, il faut que ce soit plus simple, organiser différemment. Moi, je suis un petit peu concepteur de jeu à côté, donc j'ai des idées, tu vois, à lui proposer.
Ouais.
Et lui dire, bah, tiens, tu pourrais peut-être éventuellement organiser différemment. Est-ce que ça et ça, c'est super important que ce soit dans le jeu, à tel endroit? Là, il fait, ouais, effectivement, c'est important pour moi, je sais pas. Il commence à se questionner. Là où il n'y avait pas de questionnement, tu vois.
Mmh, ouais, bien sûr.
D'où, parce que c'était de l'ordre de l'évidence, puisque ce sont des joueurs experts.
Ah là là, mais je suis en train de me dire un truc de ouf, là. Vas-y, continue, Valentin.
Enfin, voilà, c'est juste pour exemplifier.
Valentin, je suis en train de me dire un truc de malade. Ça me fait penser à une discussion que j'avais avec Pierre Lagrange, qui me disait qu'un des problèmes de la science, c'est qu'elle... Tu viens de tilter comme
oui,
moi.
Je sais pas, qu'elle est un problème d'accessibilité, elle a un problème d'expertise.
Parce qu'en fait, il n'y a que les experts en fait, qui peuvent se prononcer. Et que justement, il faudrait donner un peu la parole aux gens qui ne sont pas experts pour affiner les concepts des experts. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait démocratiser quelque part, tu vois, la... Oh là là, et là, je suis en train de me dire, en fait, ce podcast, c'est ça le sujet, en fait. C'est de dire, en fait, il faut des experts, mais dans votre équipe de développement, voilà. Il faut aussi des gens qui sont... Et alors là, si c'est ça le propos, je peux que souscrire. Et du coup, j'irais même au-delà du jeu de rôle, tu vois. Je dirais, bah ouais, alors là, pour le coup, moi qui voulais pas universaliser la thèse, je vais finir par devenir plus universaliste que toi, Antoine.
Mais oui, c'est exactement ça. C'est...
En disant, bah
ça
oui,
n'empêche pas
dans
que
un think tank...
Les experts sont hyper importants et que les experts vont aller au bout des découvertes les plus pointues. L'exemple de la science est super bon, mais derrière,
mais
ces découvertes-là, pour qu'il y ait quand même un impact et que les gens aient envie de les écouter, d'y réfléchir.
Se les approprier d'une manière.
Il faut qu'ils aient un minimum de vocabulaire pour accéder à ça.
Mais je suis d'accord. Mais dans le cadre de la controverse, c'est-à-dire dans le cadre de la controverse, le fait qu'il y ait des non-experts va au-delà de son accessibilité à cette controverse.
Il n'y a pas que ça. C'est aussi que ça va amener des idées qui sont bloquées dans la tête des experts parce qu'ils n'y penseront pas à cause de choses qui sont évidentes.
Exactement, François.
De déterminismes qui sont dus à leur expertise.
Exactement. Ça va au-delà. Ça augmente la qualité de l'expertise. C'est-à-dire que le fait de faire appel à des gens qui ne connaissent pas... c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que les gens qui n'ont... Enfin, ouais, vas-y, je t'en prie.
Et je reviens à la pédagogie. Pour moi, la meilleure façon de s'assurer qu'on a vraiment compris quelque chose, qu'on est le meilleur expert, c'est quand on arrive à l'enseigner à quelqu'un.
Ah oui, ça c'est certain.
Et donc, avoir pour obligation, parce qu'il y a une accessibilité qui se met en place, parce qu'il y a des gens qui intègrent un domaine, avoir régulièrement une obligation d'expliquer, de transmettre, là pour le coup, la transmission c'est le bon mot,
ouais.
Bah, ça aide à clarifier les choses, à aller avoir des choses élégantes.
C'est vrai,
avoir des choses,
mais par expérience, je peux te dire aussi qu'à force de pédagogiser, à force de vulgariser, tu finis par perdre les subtilités aussi. Ça, c'est clair et net. Moi, il y a des fois où je dois relire Wittgenstein et parfois, je vois les trucs, je fais « Putain, c'est vrai, j'avais oublié ça » parce qu'à force de le simplifier pour le rendre accessible, donc faut toujours... Il y a un aller-retour, tu vois, c'est toujours un dialogue. Et enfin, en tout cas, ouais, c'est... Ok, du coup, le sujet prend encore une autre ampleur.
Et je reviens au jeu vidéo dans lequel je dis pas que je veux que Dark Souls ou que des jeux comme ça... mais Dark Souls, c'est un mauvais exemple parce qu'il dit... Il est moins dur qu'on le pense.
Justement, et au fur et à mesure, c'est
voilà.
Ce que c'est Fabien.
Mais je veux pas que des jeux qui te demandent de passer 5 heures sur Excel pour pouvoir jouer disparaissent. Moi, j'adore ces jeux-là. Mais je veux aussi... Je veux pouvoir alterner, en fait. Ça y est, j'ai bien mal au crâne. J'ai fait mon truc d'expert à fond où je me suis éclaté à passer du temps dessus. Maintenant, je vais être les pieds sous la table à un jeu qui va, dans un premier temps, vraiment être logique et intuitif à suivre et qui, peut-être, au fur et à mesure, va gagner en complexité ou en problématique et après revenir sur un autre. Et oui, faire des allers-retours. Et là, le but, c'est la diversité, en fait.
Bien sûr.
Le renouvellement et la
Alors
diversité.
Et ça, qui peut être contre la diversité? Je veux dire, là c'est, pour moi, c'est une valeur universelle, quoi. Hein, même la biologie nous enseigne que voilà, quoi, la diversité...
Techniquement, la diversité, ça ne peut être qu'une valeur multiverselle, pas universelle.
Ouais.
Ça pose problème sinon.
Merci Antoine de nous avoir apporté ce sujet. On a essayé vraiment de le challenger comme on a pu, de se comprendre.
Et je vous invite à aller regarder la vidéo d'Extra Credits pour avoir aussi une vision. J'en ai amené mes réflexions par au-dessus. Regardez là si ça vous intéresse aussi.
Et la chaîne en termes de game design, c'est très bien. Et en plus, ils parlent ils ont sorti une dernière série de vidéos en ce moment qui parle de comment adapter des concepts de game design à la politique. Je pense que pour les gens de la cellule, ça ne peut qu'être intéressant.
Et surtout pour mon ami Antoine. Pour monsieur Antoine. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout,
salut.
Jouez bien.
Salut.
Ciao.